Allez tout le monde, on est parti. Alors attendez, je réajuste mon micro parce qu'il s'est démis en même temps que mon exclamation s'est lancée à démarrer ce podcast parce que je suis extrêmement content d'être avec vous. En fait, j'avais envie de faire deux choses cet après-midi. Enregistrer ce podcast et partager ce 31 décembre en votre compagnie ou aller faire un sieste. J'ai choisi la version productive, mais c'est pas dit que j'aille pas faire la sieste après parce que je suis claqué. Franchement, les déplacements du mois de décembre, ça m'a rôti le grand-père que je suis là. Il faut vraiment que j'aille dormir. Je rattrape ma dette de sommeil qui ne s'affaisse pas. C'est un peu mieux hein, quand même. Hein. Mais je le ressens, que je suis un peu fatigué, mais j'ai quand même toujours l'énergie de passer ce moment avec vous. Bienvenue dans Road to 10 Million, bienvenue dans le dernier épisode de l'année 2023 que j'enregistre le 31 décembre à 15h48. Ce qui fait que pour la première fois, pendant ce podcast, je suis accompagné d'un petit café, décaféiné, évidemment. Je ne bois que du déca. Ça vous dérange pas trop en fait, parce que finalement je crois que les bruits de gorge et bruits de bouche seront les mêmes que je boive de l'eau ou que je boive du café. Si vous voulez, on peut faire un petit test. Ça c'est café. Et ça c'est l'eau. Bon, alors c'est pas exactement pareil, parce que j'ai le retour quand même de ma voix dans mon casque. Donc j'ai entendu quand même qu'il y avait un bruit un peu plus sourd sur le second et un peu plus aqueux. Voilà. C'est définitivement l'intro la plus inattendue pour un podcast qui parle d'entrepreneuriat, mais vous inquiétez pas, vous savez, on arrive toujours à bon port dans Road to 10 Million. Bienvenue dans ce podcast, je suis Théo Lyon, votre host. J'ai 26 ans et je suis le fondateur de Koudak, mon agence Ads qui gère les publicités des e-commerçants pour la faire simple. Hein. Donc il y a trois trucs dedans, du media buying, de la créa et du tracking. Donc en 3 ans et demi, l'entreprise a atteint 412 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. D'ailleurs, si vous voulez l'info, c'est 50,06% du chemin vers les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est 62 salariés dans la boîte et donc forcément si ce podcast s'appelle Road to 10 Million, c'est parce que je ne suis pas satisfait encore de ces 412 000, je veux les amener à 833 000, qui sera la milestone la plus importante. C'est 417 000 d'ailleurs, j'ai de la merde, c'est 417 000, c'est pas 412 000. Il y a eu un retraitement du chiffre d'affaires, donc c'est pas mal. Donc c'est pour ça que ça fait 50,06%, je refaisais les calculs en même temps que je lisais, et comme je suis un énorme matheux, j'ai rapidement compris. Ce qui est en dessous ou au-dessus de 50%. Et 412, ça faisait pas au-dessus. Je m'égare. 10 millions d'euros, c'est la milestone que je veux atteindre d'ici la fin de l'année 2024. Et bon, si ça prend plus de temps, ça prendra plus de temps. Évidemment, je suis pas magicien. Je ne peux pas prévoir le futur, mais en tout cas, je vais me donner à fond. Novembre 2024, exactement. C'est ça le mois. Et donc, c'est ce challenge qui donne le nom au podcast. J'ai pour objectif, non, pardon, j'ai déjà lu cette phrase. Parce que l'intro, c'est la seule partie qui est écrite de mon podcast. Donc, j'essaie de, parce que j'essaie de pas perdre le fil. En fait, je m'autorise à perdre le fil. Mais plus tard, il faut normalement que l'intro soit clean pour que les gens aient envie d'écouter la suite. Mais là, je pense que j'ai perdu tous les nouveaux. Bon, bah voilà, c'est représentatif de ce que vous entendrez par la suite. Donc, si ça vous a pas plu, ça, je pense que vous pouvez directement vous en aller. Donc, dans cette émission, je me sers de mes expériences personnelles, rencontres et lectures diverses pour vous apprendre comment atteindre le top 1% dans ce que vous faites. J'essaie de faire en sorte que vous terminiez chaque épisode en ayant appris au moins une chose qui vous aide à grandir plus vite ou plus loin. Merci d'être avec moi et bienvenue dans l'épisode 27 de Road to 10 Million. Alors, les petits potes. Bon, petit récap de ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc, cette semaine, il y a eu beaucoup de podcasts. C'est le troisième de la semaine. Il y a eu deux hors-série, deux FAQ. FAQ 1 avec une qualité de son terrible et FAQ 2 un peu mieux. Elle dure à peu près une heure et demie par épisode. Mais je vous ai fait ça parce que j'ai pas fait d'épisode classique la semaine dernière. Donc, normalement, le chapitre 27 aurait dû être celui du dimanche dernier. Bon, dimanche dernier, si vous faites les calculs, c'était le 24 décembre. Comment vous dire que j'ai préféré passer ce temps avec ma famille plutôt que devant un micro tout seul. Même si je vous adore, hein. J'ai privilégié le grand rassemblement puisque j'étais dans ma famille dans le sud. Je vous l'ai déjà raconté ça dans les FAQ. Je vais pas vous refaire. Donc il n'y a pas eu d'épisode, mais je me rattrape hein, au lieu de deux épisodes. Donc un dimanche dernier, un ce dimanche, vous en avez eu trois, donc un en plus. Je vous ai dit, hein, c'est toujours quand vous ratez quelque chose, ce qui est important, c'est de compenser. De rattraper son erreur. C'est ma façon de vous repay, comme on dit dans la Silicon Valley. Et donc, je suis très content de pouvoir vous livrer ce dernier épisode qui, je pense, va être assez long, parce que j'ai pas mal de choses à vous partager. Sachant que, du coup, le dernier épisode qui a été posté classique, c'était il y a 2 semaines, et c'était sur les 17 années qui ont marqué mon année 2023. Je suis content qu'il vous ait plu, cet épisode. Il a fait beaucoup d'écoute. Et j'ai pu réutiliser pas mal des contenus que j'ai, du coup, écrit pour cet épisode, dans des threads que vous avez peut-être vus. Allez me suivre sur Thread d'ailleurs, c'est le même ID que sur Instagram, théo.le.lyon. Je l'ai réutilisé aussi sur Twitter et partout en fait. Sur Substack aussi, mais non, oui, parce que les amis, allez me suivre sur Substack. Il y a une newsletter qui est linkée dans la description de l'épisode, sur Spotify et sur Apple Podcast, vous n'avez pas d'excuses. Donc cliquez dessus et puis après vous verrez que je mets des petites notes. En gros, c'est l'équivalent du tweet sur Substack et donc je reprends des extraits de ce podcast que j'explicite un peu parfois, je restack des trucs d'autres personnes qui disent des trucs intelligents et notamment c'est ma grosse source en fait d'infos. Vous allez voir, j'ai une partie le meilleur de la semaine, donc la dernière section de ce podcast juste avant la FAQ, qui est extrêmement fournie et c'est notamment par des trucs de Substack que je mets en avant-première dans des restacks. Voilà, donc les 17 années idées qui ont marqué mon année dans ce sens, c'est mieux. Et j'en ai parlé dans le premier épisode. Alors dans le premier épisode de la FAQ, pardon, comme il y avait une qualité de son qui était un peu claquée, je pense qu'il y en a, il y en a plein qui sont passés à côté. Mais en gros, je suis en train de préparer là le Discord et c'est pour ça que bon, il est 15h53 à 18h30, j'ai un call avec Jules pour justement valider la V1 du Discord, qui sera bientôt prêt. Et je vous ai présenté donc dans l'épisode 1, je ne vais pas refaire toute la présentation de ce qu'on va faire dans cette V1, je la referai dans tous les cas courant janvier. Il va y avoir un Discord et si vous voulez d'ailleurs être préinscrit là-dessus, donc gardez une place parce que je vais l'ouvrir que pendant une semaine au début du trimestre. Je pense qu'a priori le truc que j'ai envie de faire c'est un truc très sélectif, donc ouvert une fois tous les trimestres, pas un truc en self-service. Donc si vous voulez que je vous envoie un mail dès que ça sort pour pas rater le moment, et je prendrai un nombre limité de personnes aussi, remplissez le petit formulaire là, qui est aussi dans la description sur Spotify. Voilà, donc ça c'était pour ce qui s'est passé précédemment. Donc cette semaine, je vous disais que ça va être un épisode dodu, pour une raison principale, c'est que c'est le dernier épisode du trimestre, et vous savez que moi je fais des objectifs toujours de 13 semaines, l'équivalent d'un trimestre, et donc c'est le moment de faire un bilan sur les OKR personnels que je m'étais fixé, et que je vous avais annoncé dans l'épisode d'il y a 3 mois, qui s'appelait Masterclass Performance Personnelle, qui est d'ailleurs le deuxième plus écouté de l'histoire de ce podcast, donc ravi qu'il vous ait plu. Alors, oula, un peu amer, le café. Ah bah, j'en ai pris trop aujourd'hui. Ça, c'est le piège du déca. C'est qu'en fait, comme il n'y a pas de... Enfin, il y a moins de caféine. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il y a vraiment zéro caféine dans les déca. Tu te dis que tu peux en boire autant que tu veux. Et comme j'adore le café, j'en bois beaucoup. Parce que je sais que je vais pouvoir dormir quand même. Voilà pour les petites remarques pour les amateurs de café. On passe aux choses intéressantes. Donc, les sections, le déroulé du podcast va se faire de la façon suivante. D'abord, on va parler d'actualité, puis on va faire le bilan du trimestre. Je vais vous faire le bilan sur les objectifs que je me suis fixés, ce que j'en tire sur comment bien fixer des objectifs, et ceux que je me fixe pour le trimestre qui arrive. Ensuite, il y aura une section pendule à l'heure, et j'en ai 12 cette semaine. J'en ai beaucoup parce que forcément, comme j'ai eu 2 semaines sans faire d'épisode avec des pendules, j'ai beaucoup de choses à dire. Du coup, ça fait 2 semaines de contenu que je vous ai synthétisé. J'en ai fait que 12 et pas 20, parce que normalement, j'en fais à peu près une dizaine. C'est pour pas que l'épisode dure 4 heures. Ensuite, le meilleur de la semaine, j'ai plein de contenu à vous partager. Et à la fin, si et seulement si j'ai le temps, je répondrai aux toutes dernières questions, celles auxquelles j'ai pas pu répondre dans les 2 premiers épisodes de la FAQ. Vous m'avez posé énormément. Je suis déjà à 3 heures de réponse aux questions. Et il me reste 1h30. Donc, vous vous en êtes donné à cœur joie. Peut-être que je prendrai. C'était les questions qui étaient un peu plus longues et plus travaillées, souvent là où il y a de la sous-question dans tous les sens, que j'ai noté dans les notes, ceux qui m'ont mis plutôt en DM. Bon, on passe à la partie actu. Bon, j'essaie de me mettre au fond de mon canapé, hop, je vais devoir déplacer, désolé pour les bruits de micro. Voilà, comme ça j'ai une position scalable. Position scalable, ça veut dire position que je peux pas... Oula, le micro est en train de se décrocher. Oh là, le pied. Oh putain de merde. Attendez, je vous coupe pas, parce que ça va me prendre quelques secondes, et ça va faire du bruit, boucher les oreilles. Ouais, je suis un peu forcé là sur... Ça va vous ? Voilà. Voilà, j'ai refixé bien fort. Normalement, ça devrait tenir. Ouais, ça tient. Yes. Yes, ça tient super. Parce qu'en fait, le contrepoids, je vous avais déjà expliqué mon setup qui n'a pas changé. C'est sur ma télé, en fait. J'ai une télé dont je ne me sers pas. Et elle me sert juste à peser 20 kilos, quoi. Pour que je puisse étendre mon micro avec tout le bras, là. Et ça marche, super. Bon, on continue. Donc sur la partie actualité, ces 2 dernières semaines, il y a un truc dont je vous ai pas parlé parce que j'ai fait quand même quelques jours de vacances. Donc cette semaine là qui vient de se finir, c'était pas beaucoup de jours de travail, c'était 2 exactement pour moi avec le jour férié du lundi. Mais la semaine d'avant, c'est une semaine qui est très importante pour Kodak parce que c'est la semaine où on fait les objectifs trimestriels. Donc en gros, je vois tous mes managers et tous les chefs de business units pendant 1 heure et on fixe les roadmaps. Roadmap, ça veut dire qu'est-ce qu'on veut développer. C'est comme des fonctionnalités dans un produit. On se dit, dans 13 semaines, je serais content si on a sorti ça, ça, ça et ça. Et notre méthode pour la faire, je vous l'ai déjà détaillé dans un épisode précédent, c'est qu'on part toujours des problèmes. Donc, quels sont les top 3, top 5 problèmes que tu rencontres? et qu'est-ce que tu as comme proposition de solution. Et c'est là où la méthode OKR intervient. Tu fixes une direction pour résoudre le problème, tu mesures ce qui selon toi serait une métrique satisfaisante qui prouverait la résolution du problème. Donc par exemple, disons que tu as un problème de churn. Donc churn, c'est les clients qui partent. Bon, les clients s'en vont pour telle raison, et bah toi ton OKR ça pourrait être réduire le churn à je sais pas 5% par mois. Et après derrière tu mets des KR dedans, donc je sais pas, tu prends tes trois causes principales de churn et tu mesures que tu as fait de l'avancement dessus. Voilà. Donc c'était le roadmap trimestriel, ça s'est passé avec brio, c'est bon, on a des OKR, tout roule, on est prêt pour attaquer Q1 2024, il va pas falloir niaiser parce qu'on a que 4 trimestres pour atteindre 2 million, donc la montre tourne. C'était le gros sujet que j'avais avant de partir en vacances. Sinon, des actus plus perso, la semaine dernière, je vous avais raconté que je m'étais fait voler mon scoot ou pas? Je crois pas. Non, parce qu'en ce moment, oui. En ce moment, je prépare une vidéo sur le marathon. Et du coup, je sors mon téléphone régulièrement à chaque fois avant d'aller courir. Et ce qui est très marrant, c'est que je m'en suis rendu compte à la fin d'un run. Donc, vous avez quasiment ma réaction en live. vous l'aurez dans la vidéo sur la préparation marathon. Je la ferai en deux fois, d'ailleurs. Je ferai une vidéo d'annonce de préparation marathon avec une pré-compète qui sera le 10K là, que je suis en train de préparer, et après une vraie vidéo si Dieu merci je termine cette course. Donc bah, bref, j'ai découvert que je m'étais fait voler mon scoot. Bon, ça m'a moins affecté que ce que je pensais. J'ai vu le truc, je savais rapidement que je pouvais pas faire grand chose, et c'est là où j'étais très content quand même de moi, de l'aspect stoïque. J'ai pas paniqué, je me suis directement concentré sur ce qu'il fallait faire. Donc bref, comme j'étais parti beaucoup en vacances, j'ai dû attendre beaucoup avant d'aller déposer ma plainte au commissariat, et j'y suis allé avant de partir en vacances. Et oh putain, qu'est-ce que c'est mal foutu les commissariats, j'ai attendu 4h30 dans la salle d'attente. Il y avait les flics qui rigolaient. Je sais qu'ils étaient 4-5 en train de rire, et personne pour me prendre. Il y avait probablement une seule personne qui prenait les dépositions, et 4 autres qui attendaient, quoi. J'imagine que c'était pas dans leurs compétences, ou alors que c'était pas leur taf, mais en tout cas, ça m'a fait extrêmement chier. J'étais assez affligé de ce truc-là, parce que moi, je me suis juste fait voler un scooter. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui s'est pété la gueule et qui attend 4 heures, enfin ça te nique une soirée, ça m'a niqué, bon le sommeil, etc. Bon ça me regarde, limite ils s'en foutent de mes objectifs de dormir 8 heures par nuit, mais c'est une expérience très très horrible avec un commissariat tout miteux, donc c'était, ça m'a fait chier, voilà, je voulais vous en parler. Après bon, principale chose c'est que j'ai pris mes 4-5 jours de vacances avec la famille, c'était super super sympa, et je l'ai beaucoup utilisé, je vous en parlais dans le début de l'épisode sur la FAQ, je l'ai beaucoup utilisé pour essayer de faire d'autres choses, c'est-à-dire passer plus de temps à consommer des trucs qu'à produire, ce qui est le comportement inverse des gens qui consomment du contenu sur Internet, c'est-à-dire qu'ils produisent jamais, ils font que consommer. Moi, ça a été l'inverse, cette fois-ci, je me suis vraiment dit, bon, bah là, je vais essayer de pas passer mon temps à essayer de produire des choses, faire des choses qui font avancer la boîte, mais juste faire rentrer des nouvelles idées dans mon cerveau, et bah, je pense que ça va se ressentir dans la catégorie le meilleur de la semaine, où je vais la descendre là. Je crois que j'ai combien de trucs? J'ai 7 contenus à vous soumettre, avec les idées à chaque fois et des petits résumés. Donc ça a pas mal servi. Les conclusions de ça, c'est Substack, c'est de la balle atomique. C'est parmi toutes les plateformes que je consomme, celle où il y a les contenus de plus haute qualité, de plus haute voltage. Donc je vais vous faire une petite recommandation à la fin avec les 7 astuces que je vais vous donner. Il y en a 5 ou 6, ce sont des newsletters Substack. Vous pourrez aller les suivre. Il faudra parler anglais toujours, hein, les potes. Bah, je pense que vous avez compris de toute façon maintenant qu'il fallait commencer à parler anglais et que c'était une énorme faille dans votre armure si jamais vous ne maîtrisiez pas cette langue. Donc, Substack, génial. J'ai acheté des bouquins aussi parce que j'ai vu une vidéo super d'un échange entre Jordan Peterson et Lex Fridman qui parlait des frères Karamazov en disant que c'était le meilleur bouquin jamais écrit. Bon, je me suis dit que j'allais essayer du coup. Donc j'ai acheté ce bouquin, je sais que j'ai Paul, mon associé, là, qui est coincé dessus depuis 6 mois, parce que c'est interminable tellement il est long. Je vais essayer de rentrer dans le challenge. Mon objectif, ça va. Enfin, vous allez voir, de toute façon, c'est dans mes objectifs trimestriels, c'est de devenir un peu plus un lecteur, parce que je ne suis pas un très grand lecteur, mine de rien, de bouquins, et j'ai envie de remédier à ça, parce que j'ai l'impression que les incréments sur tout simplement l'intelligence seront assez énormes, comparé à consommer du contenu sur YouTube ou autre semblable. Donc mes sujets du moment, je vous fais un peu le récap de ce sur quoi je travaille d'un point de vue Kodak. Je suis sur le site internet qui devrait bientôt sortir. Je pense que ce sera pour fin janvier ou début février. Ça a pris un peu de retard, mais on est en train de travailler sur des trucs assez cool. Donc le nouveau site Kodak. Le gros de mon travail aujourd'hui, à titre vraiment perso, c'est pas le travail de la boîte, c'est de mettre en place, d'exécuter le changement de ligne éditoriale dont je vous ai déjà parlé. C'est de vraiment faire en sorte que tous les réseaux sur lesquels je publie du contenu soit désormais très axé en mode le journal d'un CEO. Et donc c'est pour ça que sur l'écriture des vidéos YouTube, c'est pas la même façon de les écrire. J'essaie beaucoup de... En fait, la pierre angulaire de ma stratégie de contenu, de tout ce que je vais poster sur Internet, c'est ce podcast. C'est ce temps que je passe le dimanche, là. Je passais 2 heures avant à réfléchir un peu à ce que j'allais vous raconter. Bon, c'est pas 2 heures d'écriture, hein, mais c'est à consommer des trucs et à réfléchir à ce que j'avais envie de dire. Et après, je me sers de tout ce travail de réflexion que je fais pour tout repurpose, ça s'appelle, sur tous les autres canaux. Donc parfois, il y a des choses que je peux reprendre telles quelles. Parfois, il y a des choses qu'il faut que je retravaille ou que j'étaye, principalement sur LinkedIn, où je prends une idée, j'essaie de la pousser un peu, de trouver des arguments, des contre-arguments, enfin bref, de développer une réflexion qui va pouvoir faire naître des idées. Et donc, ça demande un peu de travail et des nouveaux process que je suis très content de mettre en place. Voilà, je travaille aussi beaucoup sur le Discord, dont je suis assez content. Je vous en dirai plus la semaine prochaine, je pense, quand j'aurai vu la version finale. Mais pour l'instant, je suis assez cool. Je pense que c'est un angle assez différenciant, en fait, d'avoir un Discord qui est axé sur la consistance. C'est-à-dire que non seulement, bon, évidemment, t'as une communauté, comme c'est très sélectif, t'as une communauté de gens assez quali pour répondre à tes questions et pour avoir des discussions de haut niveau. C'est pour ça qu'il faudra vraiment faire très très attention à l'examen à l'entrée, quoi. Mais derrière, c'est la consistance. En fait, pour moi, c'est encore plus de valeur que du contenu sur YouTube. C'est t'assurer que t'as un endroit où, comme il y a de l'activité tous les jours, et toi, t'es obligé de déclarer des trucs pour dire que t'avances. Eh bien, ça crée la notion d'adhérence long terme. Et ça, c'est très dur à créer. Donc, je pense que ça, c'est certainement une valeur pour laquelle vous serez content de payer. C'est 80€ par mois pour l'instant. Et vous allez voir, c'est aussi dans mes objectifs trimestriels, mais j'ai envie de trouver un bon product market fit sur Discord. Je sais qu'il y aura d'autres choses à probablement un peu étayer. Donc c'est pour ça que je vais faire une bêta avec très très peu de personnes au début. Si vous voulez en faire partie, je vous rappelle qu'il y a le lien en description. Mais c'est un de mes sujets de travail. Et dernière chose, on est aussi en train de travailler sur le relancement de notre formation Facebook Ads qui devrait arriver à la fin du trimestre. Et voilà, on commence à bosser, on n'a pas envie de faire un truc bateau, donc on fait une bonne phase de recherche en discutant avec beaucoup des gens qui ont déjà acheté notre formation il y a l'année dernière, et des nouvelles personnes qui potentiellement en voudraient. Donc c'est ce qu'on appelle les interviews utilisateurs, les amis. Donc on cherche un peu comment est-ce qu'on peut tirer notre épingle du jeu là-dessus, parce qu'on est trop con en fait de pas exploiter la formation. Aujourd'hui c'est moins d'1% du CA de Kodak, et je pense qu'on pourrait en faire une vraie business unit, et encore une fois ça va être dans mes OKR. Donc, voilà pour la partie active. Donc, d'un point de vue chiffre, c'est l'heure du podcasting public. Donc, je vous parle des notes et je vous parle des écoutes. Nous sommes à 539 notes sur Spotify et 183 notes sur Apple Podcast. Bientôt, si on fait un trimestre de plus, je pense qu'on atteindra les 1000. Ça sera très cool et vous me ferez extrêmement plaisir. Et je n'oublie pas, vous inquiétez pas, la sélection pour enlève tes chaussures et continuez d'aller mettre des notes et de m'envoyer la capture d'écran si jamais c'est pas sur... Je sais plus lequel c'est, Spotify ou Apple Podcast. Il y en a un sur lequel c'est pas visible directement qui a mis des notes. Auquel cas, vous mettez la capture d'écran et vous me l'envoyez sur Instagram, théo.le.lyon. Et je vous inscris automatiquement au tirage au sort pour participer à l'événement, enfin, au tournage d'Enlève tes chaussures. C'est juste qu'on en a pas prévu pour l'instant. Donc, vous inquiétez pas, vous êtes automatiquement inscrit. Je vous note à chaque fois que vous m'envoyez ça. Donc, pour les écoutes, nous sommes à 97 200 écoutes. Le but, c'était retour 150 000 à la fin du trimestre. C'était un des KR que je n'ai pas atteint. On va en reparler, mais quand même très content de frôler les 100K à la fin de l'année. Je suis trop content de pouvoir partager ça avec vous. Et vous savez, c'est le meilleur moment de ma semaine, enregistrer ce podcast. J'adore. Bon, je rajoute un peu, peut-être le meilleur moment de ma semaine, mais en tout cas, le meilleur moment de production de contenu de ma semaine. J'apprécie beaucoup plus ça que de faire un post LinkedIn. Excusez-moi, parce que j'ai ma grand-mère qui m'envoie un message. Parce qu'en fait, bon, bref, je vous raconte ma vie, hein, mais je leur amène les pizzas ce soir, donc il faut que... je connais pas son adresse exacte. Putain, faut que je ferme ma gueule un peu, là. Je suis obligé de... Ma prof de philo, elle appelait ça la leucorrhée verbale, c'est-à-dire la diarrhée du discours, quoi. C'est-à-dire, en gros, elle disait qu'il y a des gens, quand ils écrivent des dissertations, ils savent pas s'arrêter, ils racontent n'importe quoi, et ils disent tout ce qui leur passe par la tête. Moi, je pense que je suis un peu atteint de ça. Donc, il me faudrait un smecta intellectuel, je pense. Je sais pas ce que c'est. Bref, on reprend la trame de ce podcast. Le bilan des objectifs. Alors là, on va pouvoir passer un petit peu plus de temps. Donc, bilan des objectifs, vous savez... Alors, déjà, comment est-ce que je l'ai construit, mes objectifs? C'est tous les 3 mois. J'adore l'échelle du trimestre parce que c'est très facilement découpable en semaines. Et surtout, tu peux voir... Enfin, le 3 mois, c'est assez proche pour que tu en aies quelque chose à foutre. Et j'aime pas trop prendre des objectifs qui sont trop loin dans le futur, parce que quand tu dis, ouais, je vais partir en vacances dans 9 mois, pour 9 mois, c'est l'équivalent de dans 10 ans. J'aime beaucoup réduire l'échelle de temps, et ton cerveau, il est pas con aussi, hein. Il sait très bien que si l'objectif, tu dois le délivrer durant le trimestre, il va plus te mettre la pression dessus. Donc, j'essaie de garder cette échelle-là, et donc, ça fait 4 salves d'objectifs par année. Je le fais depuis 3 trimestres. Ça marche assez bien. Je regarderai, c'est ma 3e salve. Et bah voici ce que j'avais noté pour le trimestre précédent. J'avais 4 OKR, un qui était très perso que je vais pas vous raconter dans ce podcast quand même, j'ai des petites limites de vie privée. Et 3 que je peux totalement vous partager, donc un OKR santé-sport, un OKR contenu et un OKR professionnel. On commence par l'OKR santé-sport. Donc l'objectif que je m'étais fixé au 1er octobre 2023, c'était atteindre moins de 9% de body fat à moins 79 kg et courir le semi-marathon en 1h40. Plus un 10 km en moins de 47 minutes. Alors, prenons par la fin. Le 10 km en moins de 47 minutes, c'est explosé. Je l'ai couru en 44-20. Je suis très content. Le semi, c'est réussi. Je l'ai couru en 1h39. Donc, 4,45 au kilomètre. Je suis très content. Le body fat à 9%, je ne l'ai pas mesuré. J'avais prévu de faire un DEXA scan, mais j'ai préféré attendre un peu. Non, parce que j'avais le seum de devoir le faire en décembre. Je devais le faire, en fait, ce week-end ou le week-end dernier. Mais... ça n'aurait pas été représentatif des efforts que j'ai fournis pendant le trimestre, ça m'aurait saoulé. Parce que j'ai bouffé comme un porc là sur les dernières semaines, comme tout le monde. Et ma meilleure pesée est à 80 kg, donc pas à 79. Donc j'ai encore un peu de chemin là-dessus. Dedans, j'avais des KR, donc des trucs mesurables, j'en avais 8. Enfin, j'en avais 7. Le premier KR, c'était soulever 105 kg sur une rep au développé couché. Bah, j'ai même pas essayé, en fait. J'ai fait 100 kg sur 3 reps. Donc j'ai pas mal stagné... par rapport au trimestre précédent, c'est principalement dû évidemment au running. KR numéro 2, soulever 70 kg sur une rep au développé militaire à la barre, ça c'est réussi. KR numéro 3, faire 45 séances à la salle, ça c'est fait, j'en ai fait 46. KR numéro 4, cramer 46 000 calories, ça c'est pour le déficit calorique, ça malheureusement j'en ai cramé que 20 000 et on va en reparler, mais c'est un peu l'échec de mon trimestre, ça c'est la nutrition sur lequel j'ai été moins assidu. Oh là, merde, putain, mon micro est vraiment dans la sauce aujourd'hui là. J'ai peur que ça se détache. Ouais. Parce que le rafistolage que j'ai fait là en début d'épisode, quand ça a fait gling-gling, c'est pas du grand travail, c'est pas du Valérie D'Amido, c'est plutôt MacGyver. Donc ensuite, 0 heure de dette de sommeil dans mon tracking, dans l'application Rise que j'utilise pour traquer mon sommeil, on est à 4 heures de dette. Donc il y a toujours de la dette, mais c'est mieux. C'était, je crois, 10 heures au début du trimestre. Donc, j'ai un peu rattrapé. J'avais pour objectif de courir 52 fois, je ne l'ai pas fait, j'ai couru 38 fois. J'avais pas anticipé, j'ai eu une blessure déjà qui m'a retiré 2 semaines à raison de 4 entraînements. Et quelques autres fois, sur le début de la prépa d'ICA où j'ai pas été très assidu, j'ai fait 1 et 2 séances au lieu de 4. Donc je crois que ça explique le différentiel, ça fait 8 plus 2 et 3, 5, 13, 38. Ça explique presque, il en manque une, ça fait 51 fois si j'avais fait tout ça. Sur les 52 objectifs... Donc, j'ai bien couru, mais j'ai pas couru autant que ce que je pensais. Mais honnêtement, là-dessus, je me flagelle pas trop, c'est pas grave. Alors, le gros échec de mon trimestre là-dessus, c'était le méditer 76 fois. Alors, putain, j'ai pas du tout pris le temps ni l'énergie de prioriser la méditation. J'ai pas, en fait, ce qui est pas très grave, ce qui est intéressant quand je trouve, quand je lis ces objectifs-là, c'est que j'ai quand même l'impression d'avoir fait un trimestre au global qui est super positif, surtout. Donc, finalement, avoir raté la méditation, je m'en branle un peu. J'ai médité que 25 fois sur les 76. C'est quand même 25. 76 fois, c'est, vous savez, voilà, il y a 91 jours dans un trimestre. Donc, c'est, je crois que c'était 3/4 du temps, à peu près. Un peu plus. 5 fois par semaine. Je l'ai pas fait. Je pense que je manquais d'une grosse raison. Si j'avais une grosse motivation de le faire, c'est-à-dire un gros pain que je voulais résoudre avec, peut-être que j'aurais mis plus d'assiduité dessus. Mais bon, là, pas ouf. Et voilà. Donc, mes conclusions sur cette première partie, j'en ai noté 4. La première chose, c'est faites attention quand vous faites des objectifs trimestriels, si vous le faites aussi, des objectifs tout court d'ailleurs. Faites attention aux objectifs conflictuels. Donc, par exemple, moi, c'est le fait de vouloir devenir chaud en running et pousser très lourd à la salle. C'est possible d'aller à la salle en faisant du running, mais ça va être compliqué souvent physiologiquement de progresser drastiquement en force. Donc là, le changement que j'aurais dû faire, c'est mettre en place, pas mettre des objectifs sur le poids absolu à soulever, mais plutôt mettre des trucs d'assiduité à la salle. Ça aurait suffi. Et il y a une autre façon d'avoir des objectifs conflictuels. C'est vie sociale et sport très très intense aussi. Il faut avoir une idée un peu de priorisation ou de volume sur chacun d'entre eux. Moi, c'est un truc qui m'a un peu qui m'a un peu desservi là sur les dernières semaines où j'ai, bon, on est beaucoup sorti, beaucoup de voyages et tout. Et j'aurais dû un peu l'anticiper en faisant mes objectifs et pas me prendre pour un surhomme en mode je vais courir 4 fois quand je suis à Bangkok avec un décalage horaire dans la tronche. Donc ayez vos priorités straight. Moi du coup, je les ai très bien réorganisées. Numéro 1, c'est la santé. Numéro 2, c'est le sport. Et numéro 3, c'est le social. Voilà, très simplement. Enfin, et sachant que si c'est, ces trois trucs-là sont... Il y a le pro aussi, mais que bref, c'est une des catégories un peu différentes. Mais là, ici, c'était, je vous disais ça surtout pour résoudre les frictions que j'ai eues dans ce premier OKR, qui est celui santé-sport. J'aurais dû prioriser comme ça. Voilà, conclusion numéro 2 sur ce premier OKR. J'ai découvert un peu un truc que je savais qui arriverait, forcément, avec le long terme, c'est l'ennui sur les objectifs. Ça commence à faire longtemps maintenant que je me chauffe pour la salle, ça commence à faire un peu de temps que je cours. J'ai plus la passion du début. La lune de miel est terminée. Donc, on rentre dans cette nouvelle phase où j'ai l'impression que c'est là où la majorité des gens arrêtent. C'est quand c'est plus très excitant. Et donc, les objectifs m'excitent un peu moins. Par exemple, bah, le marathon. Je me suis inscrit au marathon en novembre. Novembre ou début décembre. Le marathon, c'est le 7 avril. C'est dans 4 mois. J'ai l'impression que c'est vraiment dans une autre vie. Donc, c'est pour ça que je me suis mis l'objectif 10K entre les deux pour vraiment pas perdre le fil. Mais du coup, ça fait que j'ai pas trop d'excitation. Le semi, ça m'excitait bien. Mais là, il faut que. Donc, je sais que potentiellement pendant encore quelques semaines, l'ennui va persister. Mais ce qui est important, c'est. Je suis content des. Enfin, normalement, j'ai les bonnes habitudes qui sont en place. J'ai bien mis dans mon identité le fait d'être un runner et d'aller à la salle. Donc, je pense pas que je vais sortir des clous. Mais il faut accepter cette phase-là. Si jamais vous la rencontrez aussi, vous, dites-vous que c'est normal. Ça fait partie du. Ce serait anormal de pas rencontrer cette phase. Observation numéro 3 sur ce premier objectif santé-sport. J'ai vraiment la conviction que tout part du sommeil. Et on peut dire dans une certaine mesure aussi la consommation d'alcool. J'ai pris de la grosse dette de sommeil en Thaïlande, pardon, qui était au début du mois de décembre, mais je l'ai payé pendant tout le mois entier sur la motivation pour les objectifs, la discipline pour faire les trucs. Moi, ça a été enchaîné après, donc on est parti à Chamonix. Enfin, c'était avant, on est parti à Chamonix. Après, il y a eu le team building. Donc, le conseil que j'aurais à vous donner là-dessus, c'est c'est pas de faire le surhomme sur le sommeil. Quand vous savez que vous allez avoir des nuits où vous n'allez pas bien dormir, prévoyez les temps de repos, sinon ils arriveront quand vous aurez le temps. Et parfois, il peut se passer une à deux semaines avant que vraiment vous preniez le temps de vous reposer. Moi, cette semaine, c'est ce que j'ai beaucoup fait. C'est ma semaine préférée de l'année, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit. La semaine entre le 24 et le 31, c'est celle où personne ne te casse les couilles et tu peux vraiment prendre ton temps. Donc, moi, j'ai adoré cette semaine. Donc, prévoyez vos rattrapages. Si jamais vous avez du sommeil qui est faible, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir à combattre et à souffrir pour faire ce que d'habitude vous faites avec moins d'efforts. Et quatrième conclusion, je suis quand même au global, si on prend un peu de recul, c'est une victoire selon moi sur ce premier objectif, c'est la victoire de ne pas avoir lâché. Parce qu'il y a aussi un autre scénario qui aurait pu arriver, c'est encore pire que pas avoir été très assidu, c'est d'être sorti des rails, quoi. D'avoir un wagon qui décroche. Et ralentir, c'est pas pareil que sortir des rails, c'est très différent, c'est parce qu'après il faut remettre le train sur les rails et c'est ça qui prend énormément d'énergie. Et j'ai pas envie de repasser par là parce que souvent, vous savez, l'énergie, ce qu'on appelle du coup l'escape velocity, je vous en ai déjà parlé, pour se lancer dans une tâche de zéro, ça demande beaucoup plus que juste faire continuer à rouler une pierre qui roule déjà, quoi. Il suffit juste de pousser un peu. Mais briser l'inertie, c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut surtout pas, soyez toujours mobile, ne vous arrêtez jamais. Un tout petit peu, c'est mieux que rien du tout. Il y a une énorme différence entre 0 et 0,00001. Et donc, surtout, ne revenez pas à l'arrêt. C'est ça qui est très important. Et je suis content de l'avoir fait. C'est pour ça que je vous ai aussi beaucoup parlé de ce qui est depuis devenu une de mes maximes de vie. C'est limiter la casse. Quand vous savez que vous n'allez pas pouvoir être assidu, vous limitez la casse et vous essayez d'aller squeezer un petit peu au lieu de faire beaucoup. Et ça vous permettra de pouvoir continuer, de revenir dans le rang quand la situation redeviendra normale. Donc voilà, premier objectif. OKR santé sport, au global je suis content, je suis très content même, d'ailleurs je pense que c'est l'un des meilleurs OKR des trois là. Je vais récupérer mon eau, elle est là. OKR numéro 2, c'était l'OKR contenu. Donc il s'appelait devenir le numéro 1 français en entrepreneuriat, 70K abonnés sur YouTube, 152 000 écoutes de podcast et être numéro 1 de la catégorie entrepreneuriat. Bon, alors là clairement je me suis enflammé. Il faut être honnête, j'ai 55 600 abonnés sur YouTube et 94 000 écoutes. Donc c'est un objectif qui n'a pas été rempli et je pense qu'il y a un problème dans la définition de l'objectif. Oula, putain, le micro est dans la sauce. c'est que bah, j'ai surestimé le, bah, le long terme. Enfin, le court terme, plutôt, c'est ça. Je me suis dit, 3 mois, ça m'a paru énorme. Je me suis dit, bah, je peux devenir... J'ai quand même écrit de devenir le numéro 1 français en entrepreneuriat. Enfin, en contenu entrepreneurial, c'est ça que ça veut dire. Parce que c'est l'OKR contenu. C'était un peu gros. 70K abonnés YouTube, c'était clairement au-dessus des courbes de ce que j'avais. Et 152 000 écoutes de podcast, j'ai pas fait les calculs jusqu'au bout. Donc faites attention, passez quand même pas mal de temps à mettre un objectif qui est ambitieux, mais pas irréaliste. J'ai fait tomber mon café. C'est n'importe quoi aujourd'hui, hein. Donc faites attention à ça. Dedans, j'avais 4 KR. J'avais KR numéro 1, c'est avoir publié un épisode par semaine de Road to 10 Million. Ça, pour le coup, je l'ai fait. Au global, si on prend le chiffre absolu du nombre d'épisodes. Donc super. Ensuite, j'avais avoir sorti 6 hors-série du podcast. Bon, bah non, j'ai pas fait de hors-série. Enfin, pas beaucoup, j'en ai fait un. Enfin, deux. Et, en fait, c'est des hors-série qui ont remplacé des épisodes chapitres. Donc je les compte déjà dans l'épisode chapitre. Bref, ça n'a pas été fait, j'en ai pas publié assez. Et je suis pas déçu, je publierai pas beaucoup de hors-série à part dans les phases où j'ai le temps, comme cette semaine. Sinon, ça sera Pascal. KR numéro 3, c'était avoir une vidéo qui fait plus de 100 000 vues sur YouTube. Bon, j'ai fait 75 000 vues avec la vidéo sur Cédric Doumbé. C'était un très mauvais objectif, je pense. Et ensuite, KR numéro 4, c'était gagner plus de 100 000 euros en sponsoring sur Q4. Objectif que j'ai annulé dès les premières semaines du Q4. C'était plus mes prios. Donc, quelques conclusions sur ce second OKR qui n'est pas rempli. Je suis quand même content que... Alors, le principal truc, c'est que il y a un truc que j'avais pas au début du trimestre, c'est l'habitude d'être là tous les dimanches pour vous faire un épisode de podcast. Pour moi, c'est très gros. Et je suis content d'avoir créé ce rituel et je pense que si je le tiens toute l'année 2024, ça devrait bien se passer normalement. On devrait pouvoir faire des trucs sympas et vous pourrez dire à jamais que vous étiez les premiers, vous faisiez partie des early adopteurs, ceux qui ont découvert le podcast à ses débuts. Ensuite, un objectif de vue. Bon, bah, c'était con, hein, de mettre un objectif de vue. Je le savais déjà, mais ça n'empêche pas de faire des conneries, hein, quand même. Donc, je l'ai mis quand même. Je le remettrai pas dans les objectifs prochains. Et donc, j'ai quand même un learning principal sur le content. C'est que, j'ai cherché comment le formuler, mais j'ai arrêté de faire des trucs pour chercher à vous faire plaisir. Et paradoxalement, ça marche beaucoup mieux depuis que j'ai cherché à faire des trucs que moi je kiffais. Plutôt qu'essayer de répondre au marché. Répondre au marché, ça fait parfois perdre un peu de colonne vertébrale. J'ai partagé une petite story d'ailleurs sur le sujet aujourd'hui, sur la caricature que deviennent certains influenceurs quand ils cherchent à trop répondre à ce que veulent les gens, parce que les gens veulent des trucs assez simples sur Internet. Et donc, ils prenaient l'exemple là, du, je ne sais plus comment il s'appelle, Avocado quelque chose, le mec là qui au début c'était des vidéos de violon, et maintenant fait des vidéos de challenge food, et il est devenu énorme, obèse, en mauvaise santé et tout, etc. Parce qu'il s'est coincé, en fait, il s'est perdu dans ce que lui ont demandé son audience. Donc, on a rebasé toute la stratégie de contenu autour de Road to 10 Million, qui est le format sur lequel je m'éclate le plus à réfléchir et à vous le partager. Donc ça, c'est cool. Il y a quand même mon arrivée aussi sur Substack et Threads, où je vous invite à aller me suivre. Plus globalement, sur ce podcast, une autre grosse win sur ça, c'est que j'ai quand même l'impression que si on prend un peu de hauteur et qu'on dépasse juste le cadre du format audio, vidéo et tout, ça m'a aidé, le fait de faire cet exercice, à mettre moins de filtres entre qui j'étais et ce que je montrais sur Internet. Ça a demandé un peu de courage quand même au début. Je me souviens que j'étais pas serein quand j'ai posté les premiers épisodes de RTTM. Bah parce que forcément, quand tu retires des filtres avec l'audience, bah, et quand il y a une critique, ça critique vraiment qui t'aime. Mais aussi, quand il y a un compliment, ça complimente vraiment qui tu es. Donc là, il n'y a pas d'artifice, je peux pas vraiment me cacher. Le seul truc que j'ai, c'est un peu de préparation. Mais je pense que c'est nécessaire, en fait, que le contenu soit digeste. Je peux pas arriver notamment... non plus en total freestyle, j'aime bien vous avoir préparé des choses. Donc au global, j'en tire un net positif, je suis très content de ça, et j'ai l'impression que ça vous plaît en plus. Donc on va poursuivre sur toutes les plateformes, on va tout envahir, tout. Petit retour sur la partie sponsoring, c'est pour que je continue à les conclusions qui sont en bullet point là. La conclusion principale que j'en tire sur le sponsoring, c'est que ça me brise les couilles. Ça me fait chier, les sponsoring. J'ai l'impression que c'est des bonnes sources de revenus. Ça permet de gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Mais c'est tellement pas scalable, en fait, comme truc. C'est à chaque fois, faut trouver un nouveau sponsor. Et puis, on voit. Et en fait, ça rajoute beaucoup de travail. On pensait que ça serait passif, le fait de gérer ça. Mais ça l'est pas du tout. Il y a des échanges, script mon cul, et faut... Donc en fait, les seuls cas où ça se passe bien, c'est quand c'est avec des potes, quand c'est avec des trucs où je m'en sers déjà, Et bah en fait, je sais très bien, je sais parfaitement parler du produit. Je pense à Abby, dans lequel je suis investisseur, des trucs dont on sert, genre Penny Lane, Pipedrive, ça c'est des trucs que j'utilise. Mais faut pas, en fait, c'est pas une voie de revenu que j'ai envie de pousser. Donc c'est pour ça qu'avoir mis 100, faire 100 000 euros de revenu en sponsoring, je pense pas que ça m'emmène dans la bonne direction. Je suis très pour hein, recevoir 100 000 euros sur mon compte par des sponsors. C'est même pas sur mon compte d'ailleurs, c'est sur le compte Kodak. Hein. Je touche rien de tout ça. C'est la plus grande catastrophe. Catastrophe des sponsoring, c'est que c'est du chiffre d'affaires de boîte et pas du chiffre d'affaires Théo toute la night qui peut l'utiliser pour payer une taille au Macumba. Donc j'aime bien, ce que je me suis donné comme guideline un peu sur le sponsoring, c'est je le fais que si c'est une boîte que j'adore et que j'ai vraiment un feed de ouf. Soit ça peut me permettre de faire un contenu intéressant sans trop de contraintes. Donc là par exemple, je vous le donne en avant-première, on va aller en Lituanie faire un documentaire sur NordVPN et ça me chauffe. Alors même si c'est NordVPN, ils ont sponsorisé toute la Terre sur YouTube, le fait de faire un docu sur comment est-ce que cette boîte elle a grossi, parce qu'on va avoir du coup des interviews avec des cofondateurs, ça me fait trop kiffer. Je suis content de faire un truc comme ça, et puis c'est on-brand surtout, ça me permet de montrer qu'on est chaud en gros, c'est tout, donc c'est cool. Et donc j'espère remplacer plutôt ces sponsorings par des revenus Discord ou des revenus formation internes du coup qu'on pourrait avoir... genre sur du Facebook Ads, sur ce Discord qui pourrait apporter de l'argent et faire en sorte que j'ai pas à prendre de sponsor. Ça serait cool. Donc à voir. Et puis dernière chose pour revenir sur la partie chiffres. Donc c'était quand même le titre de Locker. Alors je vais pas vous dire que les chiffres ça m'intéresse pas, c'est une partie de la motive. Mais je vais essayer d'avoir plus une approche d'artiste, je pense, dans la création de mes contenus. J'espère ne pas devenir aussi pédant que la majorité d'entre eux, même si je le suis déjà beaucoup. J'espère pouvoir avoir plus de place à la création des trucs originaux. C'est pour ça aussi que je suis très content de sentir que je suis plus moi-même et que j'ai plus d'idées originales que j'arrive à vous partager dans ce contenu. Quand on compare par rapport aux premiers épisodes, enfin moi je vois la différence en tout cas, c'est que j'ai l'impression que je vais avoir un boulevard pour créer des trucs originaux. Et ça va être cool. Et donc je vais faire des choses qui me plaisent. Voilà, c'est tout. OKR numéro 3, c'était l'OKR Pro. Donc je m'étais dit faire un trimestre à 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Bon, alors, j'ai pas encore les chiffres d'affaires de décembre, mais je pense qu'on sera au total, ça fera 1,3, 1,2 ou 1,3. Et dedans, j'avais des KR, j'en ai coché aucun, les potes, j'en avais 4. Le KR, c'était. Donc, KR, ça veut dire d'ailleurs, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, mais peut-être que vous savez pas ce que ça veut dire, c'est Key Result. C'est la partie mesurable du haut, de objectif. J'avais mis avoir intégré 2 nouvelles agences en mode studio, ça c'est un gros fail, on a intégré 0 agence. En mode studio, c'est pour faire référence à l'écosystème qu'on veut créer. Alors, pour vous donner un peu de couleur là-dessus. C'est pas vraiment un fail au global, parce que j'avais largement j'avais 2 agences avec lesquelles on était sur le point de signer et elles voulaient qu'on signe, mais j'ai eu une intuition, j'ai eu un pressentiment un peu bizarre, et pour une fois j'ai fait preuve de courage, je l'ai écouté et donc j'ai cut les 2 deals pour 2 raisons totalement différentes, rien à voir. J'ai même cut 3 deals d'ailleurs mais en fait, j'ai que 4 deals, putain. J'étais en train de compter. Je sais pas si le 4e était dans ce trimestre. Non. Ouais. Donc, peut-être que j'ai un peu forcé. Mais en tout cas, non, je suis sûr et certain que ça aurait pas été des bonnes décisions de signer avec ces personnes-là. Donc, finalement, je suis content de pas avoir intégré de nouvelles agences pour me forcer à cocher cette case. Et ça fait aussi écho à une idée que je vous avais déjà partagée. C'est que le KPI devient contre-productif le jour où il devient l'objectif. En gros, ça veut dire que ça sert à rien de prendre une métrique et vouloir la respecter à tout prix, parce qu'il y a plein d'effets de bord qui se créent. C'est l'histoire des serpents, vous vous souvenez, là, le vizir là, qui veut éradiquer les serpents, qui dit à tout le monde de couper les têtes des serpents, enfin qui va les payer pour chaque tête de serpent qu'il ramène. Et en fait, les gens ils finissent par en élever chez eux. Après, il interdit aux gens d'en élever chez eux. Et du coup, il les relâche dans la nature. Et donc, in fine, il y a 10 fois plus de serpents. Tout ça pour dire que et un objectif, il faut le regarder de façon holistique. Ensuite. J'avais mis avoir entamé la démarche de rachat d'une boîte. Ça, on l'a dépriorisé. Pour l'instant, c'est pas prio. Un peu complexe, ça prendra plus de temps qu'un trimestre. Car numéro 3, c'était avoir fait 78 posts LinkedIn. Et avec un objectif de 2,1 millions d'impressions, j'en ai fait 48 et j'ai fait 1,7 million. J'ai pas pris les stats de cette semaine. Bon, bah là, ce que je suis content, enfin, ce dont je suis content, c'est d'avoir juste repris la cadence. Bien. Et maintenant, il faut que je retrouve du plaisir un peu dans LinkedIn. Principalement en me réinspirant de ce qui fonctionne bien dans Road to 10 Million, j'ai plein d'idées en tête, mais c'est le principal truc que j'ai envie de traiter. toc, toc, toc. Et la dernière chose, c'était avoir closé un client à plus de 100 000 euros par mois de dépenses sociales. Ça a quasiment été fait. En fait, on a closé plusieurs. 100 000 euros par mois, ça fait 1 million 2 par an. On a closé des clients qui dépensent 1 million par an en pub. Et même plusieurs. Donc, du coup, je ne l'ai pas coché. Mais en vrai, je suis content. On a réussi à faire le travail pour les convaincre. Voilà pour le bilan des objectifs. Donc, si je dresse un bilan un peu plus global, j'ai pas coché beaucoup de choses, mais j'ai quand même l'impression que c'est le meilleur trimestre que j'ai fait depuis longtemps. J'ai un sentiment hyper positif à cet égard. Le fait d'avoir résisté, en fait, c'est comment j'ai réagi aux nouvelles simulations. Je suis content de pas être sorti des rails et je pense que du coup, les beaux jours vont revenir et ça va deliver. Donc, les potes, j'ai 4 OKR pour le trimestre qui arrive. Le premier. OKR santé sport, ça peut être toujours pareil, c'est devenir un athlète marathonien. Alors le marathon, c'est le 7 avril. Techniquement, c'est pas le Q1. Mais je vais devenir un athlète marathonien ce trimestre-là, en suivant la préparation. Donc pour ça, j'ai 4 objectifs. Courir 44 fois, c'est le numéro 1. Ensuite, faire 46 séances à la salle. Pour pas perdre, non plus. Faire 36,4 déficit calorique. Alors là, j'ai réduit ce que j'avais comme milestone avant. C'était 500 de déficit par jour. Là, je l'ai passé à 400 pour être moins fort dessus. Et numéro 4, c'est éteindre les lumières 52 fois à 22h30. Alors 52 fois, vous savez, je raisonne beaucoup en jour. Pour moi, ça marche très bien. Parce que comme j'ai un tracking quotidien dans les petits groupes que j'ai créés avec mes potes, ce à quoi je veux que serve le Discord d'ailleurs, c'est que ça vous servira des trucs comme ça sur des objectifs pro. Ça fait en fait l'équivalent de se coucher avant 22h30 à, enfin, 4 jours dans la semaine. C'est éteindre les lumières. Éteindre les lumières, je trouve ça plus actionnable que s'endormir. Ce qui compte pas, parce que sur un truc, sur lequel vous avez moins de contrôle. Donc, lights off 52 fois à 22h30. Et normalement, tout ça devrait faire de moi un athlète qui plus est marathonien. J'espère. OKR, numéro 2. Social and experiences. Je l'ai appelé me mettre dans des situations inhabituelles. Alors, le numéro 1, c'est j'ai mis connecter intentionnellement avec 3 nouvelles personnes par semaine. Il y a plein de gens que j'ai envie de rencontrer, et pour lesquels en fait je passe pas forcément de temps. Mais sauf que je mets pas, disons, les efforts pour le faire. Et donc ça fait que je rencontre plein de gens stylés parce que j'ai plein de gens qui me contactent directement, mais il y a plein de gens que j'ai envie de rencontrer et je serais content de leur envoyer un message. Et je l'ai fait plein de fois. J'ai plein de gens qui m'ont répondu. Je pensais jamais qu'ils me répondraient. Et je me suis, en fait, j'ai envie de pouvoir exploiter ce truc-là, de les rencontrer justement tant que j'ai rien à leur demander, juste pour échanger. Donc j'ai envie de me le mettre dans mes rituels. Voilà. Ensuite j'ai un truc un peu perso, je vous le partage pas. Et troisième truc, c'est bon, j'ai mis que j'ai envie de progresser en articulation. Vous l'avez remarqué, je suis pas la personne qui articule le mieux dans ces podcasts. Comme je parle un peu plus lentement en audio, j'ai remarqué que c'était plus compréhensible. Vu qu'on se concentre que sur ma voix, mais par exemple sur YouTube, il y a des fois où je mange mes mots, dans des podcasts où je suis intervenant, je mange un peu mes mots, et j'ai quand même envie de traiter un peu ce sujet, d'arrêter de manger les syllabes. Voilà. Donc c'était l'OKR numéro 2. OKR numéro 3. Alors, on est à combien de temps d'enregistrement? Putain, 42 minutes. On y arrive au pendule, hein, vous inquiétez pas. Après, j'arrête de raconter ma vie. OKR numéro 4, c'était le scale personnel. Donc là, je l'ai appelé devenir plus intelligent. Mon but, c'est publier 13 épisodes du podcast. Donc ça ferait atteindre l'épisode 39. 13 épisodes du podcast, c'est un par semaine, vous avez capté. Ensuite, KR numéro 2, trouver un product market fit sur le serveur Discord. Donc ça, ce sera mesurable avec mon propre jugé et avec les retours que vous me ferez. KR numéro 3, traquer quotidiennement mes dépenses. Ça, c'est un truc sur lequel je suis nul. En re-regardant franchement la question dans le vlog de Chamonix, là, où je réponds à mon salaire, et je me suis rendu compte avec la question que je ne connaissais pas mon salaire. Ça m'a fait... Alors, c'était rigolo, mais ça m'a fait un petit peu peur aussi. Du coup, je suis allé demander directement la semaine d'après les factures à mon assistante pour savoir exactement combien j'avais gagné. Et donc, j'ai envie de quand même de développer l'habitude de savoir combien j'ai sur mon compte. Ça serait bien. KR numéro 4, faire 80% de mes journées à 15 minutes maximum d'Instagram Reels par jour. Moi, c'est un peu mon péché mignon, Instagram. Instagram Reels. Enfin, Instagram et du coup Instagram Reels. J'aimerais bien pouvoir séparer les deux pour bloquer les Reels. Et comme j'aime bien Instagram, j'aime bien vous partager des trucs, bah je clique parfois sur le bouton maudit. Donc j'ai envie de... Je le traque assez facilement parce que je me sers d'Instagram principalement le soir. Et j'ai remarqué que j'arrive déjà bien à m'en priver la journée. Donc je vais limiter à 15 minutes en mettant un minuteur à chaque fois. Un truc que je faisais déjà un petit peu. Et ensuite, KR numéro 5, l'un des plus importants, c'est lire 15 minutes par jour. Vous voyez, c'est pas très ambitieux. Hein. 15 minutes par jour, c'est pas grand-chose, mais comme je pars vraiment de zéro... ça sera déjà une win. Donc, comme c'est par accepter le point de départ, je ne vais pas me répéter 15 000 fois. OKR Pro, faire un trimestre à 1,65 million d'euros. Pour ça, j'ai 3 KR. C'est le chiffre d'affaires dont je parle. Avoir lancé la période d'essai avec 6 fondateurs. Ça, je peux pas vous le dire, c'est secret. Et numéro 3, c'est avoir une business unit formation qui est active. Donc, c'est ce dont je vous parlais là, dans mes sujets du moment sur notre formation Facebook Ads. Donc, qu'on puisse avoir des clients contents sur cette activité-là aussi. Voilà pour les objectifs. Je vous invite à faire de même avec les vôtres. Structurez-les comme ça. Prenez pas des échelles trop longues et ayez des façons mesurables de savoir si vous avancez. Je vais me redresser pour pouvoir vous faire les pendules à l'heure parce que je dois activer mon cerveau. Merde, mon micro a tourné. Comment je remets cette merde ? Hop là. Vous m'entendez ? Super. Normalement, ça devrait fonctionner. Putain, il est suspendu. J'ai le pire setup. Je crois que c'est le pire setup que j'ai fait depuis le début de ce podcast. Rien n'est stable. Alors, pour les nouveaux, les pendules à l'heure. Vous connaissez vous connaissez pas la rubrique, pardon, parce que vous êtes nouveau. Les pendules à l'heure, ce sont des observations ancrées dans le réel, donc très empiriques, qui sont notées et consignées dans mon journal de bord, enfin mon journal de bord, aka mes notes, mon application notes sur iPhone, qui me viennent en regardant des trucs. Donc soit en consommant des contenus, soit en parlant avec des gens, soit en faisant du taf. Et donc ce sont des choses très incomplètes, qui relève plus de l'intuition que de la démonstration philosophique, très poussée, juste des choses voilà, qui me viennent en tête et qui ont pour but de faire éclore des idées dans vos cerveaux. Je les résume toutes les semaines dans la newsletter, sur Substack, dont vous pourrez trouver le petit lien toujours en description. Il n'a pas bougé, hein, je vous en ai déjà parlé, c'est le même. Et vous recevrez dans la semaine une synthèse de toutes les pendules. Et vous pourrez aussi retrouver les synthèses des deux épisodes précédents, parce que j'ai commencé à le faire, mais assez récemment. Alors, pendule à l'heure, numéro... Une, j'en ai 12 au total, les potes. Accrochez-vous bien, prenez-vous un petit thé parce que va y avoir de la matière. La pendule numéro 1 s'appelle « On ne met pas des jantes en or sur une Clio ». Est-ce que vous trouvez que j'ai progressé sur le titre des pendules ? Celle-là, j'étais pire. Elle est de moi, je ne vois la personne. Je crois que je suis un tout petit peu trop fier. Bref, j'ai reçu un mail de Decathlon là aujourd'hui parce que bon, je vais pas trop m'étendre même si j'adore raconter ma vie. Ma mère avait sa montre qui marchait plus, je l'avais offert à Noël donc il fallait que je retrouve un mail de Decathlon pour qu'elle puisse se la faire rembourser. Et du coup, j'ai relu le mail et le mail était super mignon. Genre, il y a plein de touches d'affection dedans et j'ai trouvé ça bon, très cool et aussi très différenciant. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas compliqué. Genre, il y a plein de marques qui pourraient bénéficier de cette différenciation juste d'être un petit peu plus sympa dans les mails. Et ça me faisait penser aussi à Capitaine Train, donc aujourd'hui ça a été racheté par Trainline, qui avait émergé comme ça en fait en mettant la patate sur le service client. Et je me suis dit, j'ai remarqué qu'en fait d'extérieur, souvent quand tu observes des business, c'est assez facile de trouver des points sur lesquels tu pourrais te différencier, ou sur lesquels du moins, tu peux comprendre la différenciation d'un business. Bon, Apple ça a marché parce que, voilà, tu peux avoir plein de d'explications, mais c'est des meilleurs marketing, des produits léchés, je sais pas, bref, tu peux trouver plein de choses. Donc c'est très facile de l'extérieur. Et c'est important d'avoir une différenciation parce que c'est des choses qui souvent vont te permettre de conquérir des marchés via des segments d'audience. Donc, Donc, par exemple, tu as une marque qui vend des bagnoles à tout le monde et toi, tu vas décider que t'es la meilleure marque pour les familles de 4 enfants. Donc, une marque de monospace, quoi. Et bien là, tu vas brander ton truc parfaitement, être hyper différencié en ayant une bagnole plus large, etc. Et au fur et à mesure, en fait, c'est comme ça que les marchés se structurent. C'est des grosses marques qui se font racler des sous-marchés par des petites marques. Puis ensuite, les petites marques essaient de remplacer les grosses en attaquant leur marché derrière. Et ça s'attaque avec des différenciations, avec des points différenciants qui permettent de conquérir des marchés. Donc tout ça, en fait, pour dire que parfois, juste en lisant un mail, tu peux te dire que tu es un génie du business, tu peux trouver une différenciation de ouf et qu'en fait, tu pourrais révolutionner des secteurs. Mais la suite, et c'est pour ça que j'ai appelé ça « On ne met pas des jantes en or sur une Clio », c'est que la différenciation, c'est pas une affaire d'idées. Souvent, elles sont assez faciles à trouver. Ce qui est dur, en fait, c'est de les amener à l'échelle. En fait, il y a des différenciations qui sont vraiment très simples à comprendre. À Noël, par exemple, j'ai offert beaucoup de Displate. Je ne sais pas si vous connaissez, mais encore une fois, une marque d'influenceurs. Et j'ai réalisé pourquoi est-ce que le business model de ce truc était génial. C'est parce que la plaque, ils te la font coller avec un aimant sur ton mur. Ils te font fixer l'aimant et après, ils te disent, bon, bah, du coup, tu peux changer ad vitam les plaques. Et ça résout un des gros problèmes de l'e-commerce, c'est la LTV. Donc la lifetime value, c'est-à-dire que les gens, ils achètent, ils reviennent pas. Une fois que t'as foutu le putain d'aimant, que tu l'as fixé sur ton mur, t'es bien content parce que t'as pas fait de trou, mais t'as un aimant display sur ton mur. Ça veut dire que tu en fait, quand ça te fait chier et que le tableau tu l'aimes plus, tu retires, il y a le putain d'aimant en dessous, tu te dis bah attends, faut que je rachète un autre. Et donc les gens y reviennent et tu crées de la fidélité. Et finalement, les autres marques de décoration, enfin concurrents de display, bah tu les regardes plus, à moins qu'elles utilisent le même aimant. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est facile à décortiquer comme ça, mais en fait, si n'importe quelle personne qui pouvait trouver cette idée d'aimant pouvait monter display, ça se saurait. C'est deux disciplines différentes. Ce qui est dur, en fait, et c'est là où je veux en venir, c'est que c'est dur d'arriver au stade de développement d'une boîte où cette différenciation va faire son effet. En gros, ça sert à rien de mettre des jantes en or sur une Clio, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'as si t'es pas Décathlon, si tu fais pas des produits super innovants, pas chers, etc., les gens vont s'en battre les couilles que tu leur parles gentiment dans les emails. Et il y a un genre de pyramide de Maslow, en fait, de la différenciation. C'est-à-dire que plus ta différenciation, elle va être, je veux dire, quoi, cosmétique, donc légère. Donc, typiquement, le ton dans un email, c'est très léger comme différenciation. Plus, ben, en fait, tu dois avoir couvert tous les échelons précédents de la pyramide. Donc, ton produit doit être bien. Enfin, bref, etc. Tous les trucs. Comment vous l'expliquer plus précisément? Il y a quand même des. En fait, tu peux pas mettre un ruban cadeau sur une merde. Pas pourquoi c'est ça qui m'est passé par la tête. Et genre, un ruban sur une merde, ça a beau être le petit. Tu mets pas une cerise sur un gâteau pas bon, quoi. Donc, il faut d'abord que le gâteau il soit clean, qu'il y ait les bons ingrédients, le bon cuistot, etc. Donc, les potes, quand vous réfléchissez aux différenciations, quand vous voulez créer des différenciations sur vos business, essayez de vous dire quels sont les trucs que tout le monde fait, que je dois d'abord faire et qui vont me permettre ensuite d'arriver dans la zone où mon facteur différenciant va pouvoir me permettre de gagner sur ce marché. Et donc, pour Kodak, c'est aussi très simple. Non, on voulait être. Très simplement, une agence de gens sympas, jeunes, relatable, qui te répondent, qui font pas les bâtards. Mais ce truc-là n'a pas de sens si, de base, je suis pas une agence hyper performante en ads et en accompagnement client. Donc, c'est pour ça qu'il y a une grosse phase qui est construire tout ça. Et moi, je suis plutôt un homme de la différenciation, vous avez compris. J'aime pas trop la réplication. C'est pour ça que je suis très content d'avoir des associés complémentaires là-dessus. Ça me permet de pouvoir travailler que sur ces trucs-là, des trucs un peu différents. Donc, on ne met pas des jantes en or sur une Clio. On change la Clio. C'était la numéro une. Pendule numéro 2. Chercher conseil auprès de ton meilleur pote, c'est comme demander à ta mère si t'es beau. Ta mère va toujours dire que t'es un beau jeune homme. Je sais pas pourquoi cette idée est passée dans ma tête là-dessus, sur l'honnêteté intellectuelle. À chaque fois, en fait, j'imagine une meuf qui raconte à sa meilleure amie ce que son mec a dit. Elle dit « Ah, t'as vu ?» Quand ils sont embrouillés, elle va raconter « Ah, mais t'as vu ce qu'il m'a dit ? C'est tellement un connard. » Et souvent, en fait, ce qu'elle va obtenir en échange... ça marche aussi avec les mecs d'ailleurs, c'est du réconfort. Enfin, ça dépend de ton type de pote. Ça est un peu moins présent chez les mecs, je pense. Et en fait, le réconfort d'un ami, ça sert à te sentir mieux. Tandis que la vérité, ça sert à aller mieux. Tu vas avoir souvent des amis qui t'aiment tellement et qui vont pas pouvoir t'aider. Je sais pas si vous comprenez cette phrase, mais c'est ce qui va t'aider à. Bon, je sais pas, résoudre la situation avec ton mec ou j'en sais rien. Je prends ça un exemple de relation, mais ça marche pour plein de choses. Hein. Quand t'as une galère en business et que tu vas demander son avis à un pote, souvent il y connaît pas grand chose, mais il va quand même te le donner parce qu'il t'aime. Et surtout, il va te donner un avis qui va te dire ah, t'as raison. Il va souvent aller dans ton sens, mais pas sans vouloir te duper. Hein. C'est juste parce qu'il t'aime bien. Et donc, quand tu parles d'un problème à quelqu'un, demande-toi toujours si dans le passé, cette personne-là, quand t'as parlé avec elle de tes soucis, est-ce qu'elle t'a déjà donné des avis qui étaient contraires à ta thèse principale, mais vraiment très contraire. Est-ce qu'elle t'a déjà dit « Non, là, t'as fait de la merde ». Si elle t'a jamais dit ça, c'est probablement que c'est pas un conseiller, c'est plutôt un pote. Et donc, il faut faire très attention parce que le pote va pas te permettre de résoudre les problèmes, il va apaiser la douleur. C'est comme la différence entre un pansement et une opération à l'hôpital. L'opération, ça va résoudre le truc. Et le pansement, bon, bah, ça va te... Ça n'abrège même pas la douleur, en fait. Disons que c'est de l'anesthésie. J'aurais plutôt dû dire ça, de la morphine. Donc n'utilise pas les paroles d'un pote pour savoir ce que tu dois faire. Demande pas à ta mère si t'es beau gosse. Elle t'aime beaucoup trop pour te dire que t'es laid comme un pou. Point de numéro 3. Alors, elle est notée en anglais celle-là, justement parce que la phrase en anglais n'existe pas en français. C'est un truc qui je sais même plus où je l'ai entendu. C'est la phrase « to speak something into existence ». C'est une formulation anglaise. Dont je me suis rendu compte, je crois pas qu'on ait l'équivalent du moins dans le même sens en France. Le truc le plus proche, ça serait faire voir le jour à quelque chose, mais to speak something, ça veut dire c'est en gros je sais pas, il y a vraiment un genre de sens d'une personne a dit quelque chose et cette chose est devenue réalité. Il suffit de dire pour que ça devienne. Et c'est une sensation qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui partagent. C'est d'avoir produit quelque chose de singulier sur une idée qui t'était propre à toi. Et il n'y a pas beaucoup de gens, en fait, qui ont réussi à... Putain, je dois faire des anglicismes pour expliquer cette partie. À speak des choses into existence. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que je voulais noter ici et je voulais en faire une pendule à l'heure? Parce que selon moi, je pense que c'est un excellent goal de carrière. De se mettre dans des situations où tu vas pouvoir speak des choses en existant. Donc faire voir le jour à des choses simplement en les disant. Il faut te retrouver dans ce genre de position-là. Et c'est pour ça, je pense aussi que... Parce que c'est quand même le pouvoir suprême. Tu as vraiment l'impression d'avoir le contrôle sur ton environnement. Tu peux créer des choses. Et créer des choses, la satisfaction, elle est tellement énorme que quand tu as goûté à ça, tu ne peux plus en fait créer uniquement les choses des autres. Il faut toujours que tu aies une partie qui t'est propre. Tu peux pas revenir en arrière. C'est la boîte de Pandore. Et je pense que c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les gens font des enfants, hein, ça. C'est quand même le... Alors, c'est pas speak something into existence, mais c'est totalement speak something into existence. Tu vas parler à ton enfant et tu vas en l'éduquant, tu vas créer une personne. Ça, c'est quand même l'accomplissement suprême. Pour ça que, je vous l'avais déjà dit, mais j'ai énormément de mal à comprendre, sans pour autant les juger, les gens qui veulent pas faire d'enfants. Parce que la quête, elle est tellement stylée que je peux pas me dire je vais crever sans l'avoir fait. Donc maintenant, la question, c'est de quoi est-ce que tu as besoin pour arriver dans des situations où tu vas pouvoir speak things into existence? Je pense que tu as besoin de trois choses. La première chose, c'est de l'indépendance. Donc tu as soit besoin d'être ton propre patron ou d'avoir ta propre boîte, ou alors d'être dans une position à responsabilité dans une entreprise. Donc il faut chercher l'indépendance ou l'autonomie, plutôt, c'est ça. Numéro 2, et donc ça vient avec plutôt la dernière partie de la proposition, qui est avoir une responsabilité dans une entreprise, c'est avoir du leverage. Donc une idée d'Elon Musk, par exemple, elle va produire beaucoup plus tout court, d'ailleurs, qu'une des miennes. Parce qu'il a tous ses leverages, à la fois le capital, la réputation, les gens qui travaillent pour lui, Tesla, SpaceX, etc. Donc lui peut avoir une idée de « je vais emmener une roquette sur la Lune » et il peut la « speak into existence ». Ok. Et la troisième chose, c'est du courage. En effet, tu ne peux pas créer quelque chose qui t'est propre si toi-même, tu ne penses qu'avec les idées des autres. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut chercher à tout prix. C'est le courage, le fait de penser par soi-même. J'en ai déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de ce truc-là. Apprenez à devenir des independent thinkers. Donc, c'est-à-dire avoir des opinions, non pas qui vont aller contre la masse, parce que ça, c'est une autre façon d'être dépendant, mais des idées qui vont que vous allez développer sans qu'elles vous aient été soufflées ou popularisées par une masse. Bon, je ne sais pas exactement, elle n'est pas très claire, franchement, ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas très clair, peut-être, ce que ça veut dire, en fait, l'independent mindedness. Ça, c'est un article de Paul Graham. Il faudrait que j'aille relire, mais je crois qu'il l'explique dedans. Mais donc, résumez-le simplement, en fait, faire preuve de courage, ça marche aussi très bien. Ça amène souvent à être un penseur indépendant. Donc, apprenez à vous mettre sur une trajectoire pour pouvoir speak le plus de choses into existence. Un peu d'eau. Numéro 4. Est-ce que c'est OK de parler de soi? Bon, un des premiers trucs que j'avais appris quand j'apprenais à faire de la pub Facebook, principalement sur la partie copywriting, j'avais lu un très bon bouquin qui s'appelait « Making Ads Pay », payer les pubs, faire payer dans le sens les efforts qui payent. Et dedans, il expliquait qu'un des principes du copywriting, c'est qu'il faut toujours parler du client. Il faut parler que ce soit dans les pronoms que tu utilises, donc vous, etc., ou dans ton discours. Il faut que tu parles de lui, de sa vie. Et en expliquant que c'était le seul moyen d'avoir un impact sur les lecteurs dans le cadre d'une publicité. Aujourd'hui, on peut élargir ça à des auditeurs, des viewers, etc. Et bien ça, les amis, je pense que c'est pas tout le temps vrai. Parce que j'ai réfléchi un peu à tous les contenus qui avaient eu le plus d'impact sur moi, et je pense que je peux étendre à pas mal de gens, je suis pas du tout spécifique sur ce point-là. Et en fait, ce sont souvent des films ou des livres. Ça, c'est vraiment les choses qui te marquent. Et en fait, les films ou les livres, elles sont rarement écrits, elles racontent pas ton histoire, hein. Ça raconte toujours l'histoire de quelqu'un d'autre. Et pour moi, il y a une étape en fait qui est au-dessus du fait de parler des prospects, c'est de réussir à parler des autres via ton expérience personnelle. Donc en gros, parler de toi. Donc par exemple, quand tu vas mater Les Indestructibles, le film, tu peux reconnaître par exemple la relation avec ta sœur, tu vois, c'est un truc qui te parle. Ou quand tu vas lire Harry Potter, tu vas voir un garçon qui était mis de côté, pas respecté par une famille, et qui en fait va devenir une putain de star, genre un magicien trop puissant. Et ça va faire écho à qui tu es. Mais sans te dire de façon évidente, t'es une grosse merde pour telle raison, tu pourrais devenir ça, etc. Regarde, lui, il est devenu tel truc. Parce que ça, il y a directement en fait l'alarme qui s'allume dans nos cerveaux de « on est en train d'essayer de me faire faire quelque chose », donc de manipuler. Je trouve que voilà, il y a des façons plus subtiles en fait et qui marchent mieux d'avoir un impact sur les gens. parce qu'elles sont bombes apparentes. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que en fait celui qui contrôle Hollywood ou celui qui contrôle les médias, c'est celui qui contrôle le monde. C'est parce que dans ce type de médias en particulier, eh bien les gens ils captent même pas qu'ils se font influencer. Tu crois que tu mates un film alors qu'en fait tu as pris le message d'un réalisateur et tu crois que tu t'informes dans un média alors qu'en fait tu prends les faits et leurs interprétations. Et donc ça crée une vision du monde. Et même dans la sélection des informations, tu peux manipuler l'opinion des gens pour te faire croire. Enfin, en fait, qu'est-ce que ça dit une première page d'un magazine, ça te dit qu'est-ce qui est important. Tout ce qui n'est pas sur la première page est moins important. Et c'est ça le choix en fait du lecteur. Donc, c'est pour ça que les médias neutres, ça n'existe pas. Hugo Décrypte fait du très bon travail, mais ce n'est pas un média neutre du tout. La prochaine fois que vous mettez un film, du coup, demandez-vous les potes quel est le message que l'auteur veut faire passer et est-ce que je suis d'accord ou pas avec ce message. Donc pour avoir de l'impact, moi je vous dirais en fait, même d'ailleurs que dans vos stratégies marketing, de faire l'inverse. Trouver une façon de parler de vous qui parle au lecteur. Tu as le droit de raconter ton histoire, il faut juste que ton histoire, ça soit celle des gens que tu veux toucher. Donc n'ayez pas peur de parler de vous. Dans tous les cas, c'est aussi une condition à l'exercice du contenu en ligne. Et c'est pour ça que c'est un peu ridicule de reprocher à un créateur de contenu, mais il fait que parler de lui. En fait, c'est justement, créer du contenu, c'est prendre la parole. Donc souvent, c'est des reproches qui sont faits par des gens qui n'ont pas jamais partagé de contenu. Donc il faut accepter de parler de soi et de le faire d'une façon qui nous semble authentique. On passe à la pendule numéro 5. Vivre la vie comme un jeu vidéo. Alors ça, je vous le mettrai en lien dans la newsletter, je mettrai tous les contenus dont je parle en lien dans la newsletter et pas dans les notes sur Spotify. Il va falloir aller me donner votre email, les potes, mais vous inquiétez pas, je vais le respecter. Je n'envoie que des trucs en rapport avec Rototé Milieu, je ne suis pas un bâtard. Donc c'est une newsletter, c'est un podcast dans lequel est reçu George Mack, qui écrit une super newsletter aussi. Je vous en ai déjà parlé, je crois, dans des épisodes précédents. Ça s'appelle Infinite Loops. Et dedans, il dit un truc qui m'a marqué. Il dit que Life is a poorly designed video game. Et il balance un chiffre que j'ai pas retenu, il faudrait que j'aille le reprendre, mais il dit que la valeur de l'industrie du jeu vidéo, c'est plus gros que, je crois, la télé, l'entertainment, le cinéma combiné. Et il se demande pourquoi. Et c'est parce qu'en fait, les jeux vidéo ont trouvé la façon parfaite de rendre des gens addicts sur le long terme. Ils savent comment créer un jeu auquel et te donner envie d'y jouer longtemps, jusqu'à la fin. Et donc, il te dit, bon, tu peux prendre il y a deux façons de voir les trucs. Soit les jeux vidéo sont créés pour t'extirper de la vie, et en fait la vie c'est le vrai jeu et les jeux vidéo c'est de la merde, parce que ça te fait perdre du temps et que t'accomplis pas grand chose. Soit en fait le problème c'est avec la vie, tu vois, la vie classique telle qu'elle est vécue, elle ne fait pas du tout appel à tous ces mécanismes là qui te font être assidu dans quelque chose. Et donc en fait c'est un poorly designed video game. Je pense avant d'être un drame en fait, ce sentiment d'addiction aux jeux vidéo, je pense que c'est une invitation à réemployer les mêmes mécanismes pour construire nos vies et accomplir nos quêtes. Il y a pas mal de mécanismes qui sont communs à des jeux vidéo, alors c'est pas une analyse complète, hein, j'ai pris les premiers qui me sont passés par la tête, mais j'aimerais beaucoup écrire un contenu plus long dessus, je pense que ça serait en haut de mes sujets, tellement c'est intéressant. Je pense que voilà, étudier un peu comment sont construits les jeux vidéo, quelles sont les mécaniques de jeu, ça te permet en fait de créer des trucs dans ta vie qui vont te permettre de plus facilement, je sais pas, tenir un objectif de marathon, devenir un sportif. Bon, de toute façon, je suis bloqué sur ça depuis des mois. Vous comprenez, je ne parle que de running. C'est le premier qui me vient en tête parce que c'est long et c'est dur. Je parle bien de course, hein, les potes. Donc, par exemple, dans un jeu vidéo, il y a quoi ? Il y a souvent la notion de micro-victoire. Donc, les micro-wins, comme il dit. Ils vont pas directement te rappeler que, dans World of Warcraft, putain, mais t'es pas niveau 80. Je crois d'ailleurs maintenant, ça va plus loin que niveau 80, mais à l'époque où j'ai metté un petit peu les pieds, c'était niveau 80. Et en fait, ils vont d'abord te présenter des petites quêtes intermédiaires. Tu vois, t'as la main quest, qui est genre devenir avoir ton personnage au plus haut niveau, gagner tous les donjons, récolter je sais pas quoi. Et après, ils vont te faire des quêtes intermédiaires pour te donner envie de rester. Ils vont faire en sorte que tu gagnes très tôt dans le jeu. Première satisfaction, putain, tu passes du niveau 1 au niveau 2 où tu remplis une quête. Et progressivement, ils vont te faire des quêtes de plus en plus dures et c'est ça qui va te rendre accro. C'est que tu vas te voir level up. Et c'est le second point, c'est que un personnage dans un jeu vidéo, en fait, il level up, il développe des nouvelles compétences. Surprise, un truc très marrant, c'est, vous savez comment est-ce qu'ils progressent les persos dans les MMORPG. Ils progressent pas avec de la réflexion dans leur tête, ils progressent avec de l'XP. XP, ça veut dire expérience. Ça, c'est une invitation très simple. Tiens, tiens, tiens. Ils progressent pas avec des nœuds dans le cerveau, ils progressent avec de l'action, de l'XP, expérience. Faut récolter l'expérience pour passer des niveaux. Donc moi, j'aime bien voir la vie de manière générale. Comme genre, les trimestres, c'est pour ça que c'est cool. Les trimestres, en fait, c'est les quêtes intermédiaires. Ça te permet, tu vois, de quelles compétences je vais développer ce trimestre-là, qui va me permettre d'être plus fort et tout. Et quand tu es capable de vraiment intentionnaliser ça, de prendre des notes, c'est pour ça que le journal, ça marche très bien. et bah tu dis, ok, putain, le perso Théo, il est plus fort au 31 décembre qu'il était au 1er octobre. Et ça, je trouve ça trop stylé. Numéro 3, quels sont les jeux qui rendent le plus addict? C'est toujours les mêmes, c'est les jeux, ce qu'on appelle les MMO, Massively Multiplayer Online Role-Playing Games, MMORPG. Et donc, en fait, ils font en sorte que tu aies un pire groupe, donc un groupe de gens avec lesquels qui sont sur une quête similaire à la tienne et avec lesquels tu vas te retrouver. C'est eux qui vont faire de la rétention sur le jeu. Il y a le système de guild très présent dans Dofus, World of Warcraft aussi. Comme beaucoup hein, de gens de mon âge et de ma génération, j'ai énormément joué à Dofus, beaucoup, beaucoup, beaucoup joué. Mais j'étais pas très bon. Donc le but, voilà, c'est une invitation à se construire un pire groupe. Et un truc très drôle aussi, et c'est mon quatrième point, sur les caractéristiques des jeux vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de jeux qui sont, dans la majorité des jeux, t'es à la troisième personne, il n'y a pas beaucoup de jeux en première personne. Et c'est ceux où tu veux, en fait, les jeux les plus addictifs du monde sont des jeux à la troisième personne. League of Legends, etc., tous ces trucs-là. Et parce que, en fait, quand tu vois quelqu'un à la troisième personne, t'es beaucoup plus lucide sur qu'est-ce qui est bon pour lui, etc. Tu vas prendre... enfin, tu vois ton personnage de l'extérieur, le personnage n'est pas toi. Et ça fait que souvent, t'es capable de level up ton personnage dans un jeu beaucoup plus vite que t'es capable de level up ta propre vie. C'est un peu triste, mais c'est parce que tu le vois de l'extérieur. Tu dis, attends, mais je vais faire mon personnage là dans NBA 2K, il va faire 2m30, il va avoir des gros muscles, etc. Il va développer son shoot, son dunk, son alley-oop, tout, et mes couilles. Sauf que les gens font jamais ça dans leur vie, dans leur vie réelle. Tu vois, ils voient pas du tout ça comme un personnage extérieur. Et tiens, encore une fois, je vous ai parlé hein, de la notion de se voir à la troisième personne. C'est dans les idées du bilan 2023. Donc voilà, il y a beaucoup à apprendre, je pense, des jeux vidéo et dans la façon où ils construisent l'arrivée vers une quête. Je vous conseille de creuser un peu ce truc-là. Voyez votre vie comme un jeu vidéo, c'est très marrant aussi. Pour la pendule numéro 6, je vais parler de Machiavel. Alors Machiavel, il a écrit plein de bouquins, entre autres Le Prince. C'est un monsieur qui a donné le nom au mot machiavélique, qui a assez mauvaise pub, mais qui dit des choses assez intéressantes. Et c'est un petit rappel de façon d'une idée que j'avais déjà partagée. Mais j'étais content de voir Machiavel en reparler. Il a été cité par Rob Anderson dans une newsletter Substack, encore une fois. Abonnez-vous à ma newsletter sur Substack. Je vous parlerai de toutes les autres newsletters sur Substack qu'il faut absolument lire. Dans lequel il dit « Tout humain qui, dans toutes les conditions, s'obstine à vouloir être bon, bon c'est dans le sens de bonté et montée d'âme, sera certainement détruit parmi tant d'autres qui ne sont pas bons. C'est pourquoi un prince doit acquérir le pouvoir de ne pas être bon et comprendre quand l'utiliser et quand ne pas l'utiliser, en accord avec la nécessité. » C'est une idée qui est très, 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 très intéressante pour plusieurs raisons. Déjà, j'étais content de voir Machiavel en parler, mais ça rappelle un exemple que je vous avais peut-être déjà partagé. C'était quand j'étais en Australie, j'avais un coach de boxe qui faisait la différence entre les gens inoffensifs et les gens pacifiques. Les gens inoffensifs, c'est ceux qui savent pas se battre et qui n'ont pas d'autre choix en fait que de ne pas faire la guerre. Et les gens pacifiques, c'est ceux qui savent se battre et qui choisissent consciemment de ne pas faire la guerre. Vous voyez que c'est comme... la citation qui dit que les idiots et les experts pensent la même chose, là c'est la même chose, hein. Les deux ne se battent pas, c'est pas pour les mêmes raisons. Et c'est pour ça que c'est très important le pourquoi. Parce que le pacifique est respectable, l'inoffensif ne l'est pas du tout. Et donc faut. Ça fait écho aussi à une autre idée, qui est très proche de celle du poker. Au poker, on dit toujours qu'il y a une notion qui s'appelle équilibrer sa range. Ça veut dire que dans une situation, contre un adversaire, il doit jamais être en mesure de savoir si t'as une bonne ou une mauvaise main. Il faut toujours que t'aies des mains. Potentiellement qui ait joué le coup pareil et qui soit des bluffs, et des mains qui aient joué le coup pareil et qui soient bien meilleures que la main en face. Ça s'appelle avoir une range équilibrée. Si malheureusement t'es tout le temps, il sait que dans telle situation t'as tout le temps une bonne main, mais il va tout le temps se coucher, tu vas lui prendre aucun argent, ou s'il sait que t'es tout le temps en bluff, bah, il va tout le temps avancer. Et ça c'est des informations que tu peux récolter autour d'une table de poker sur certains types de joueurs, souvent débutants. Donc ça c'est la même chose. En fait, quand on parle de diriger des choses, des pays, des boîtes et tout, etc., tu dois être capable en fait de faire les deux. Tu dois être capable d'être très dur. Est capable d'être très sympa, et tu dois surtout être ni trop de l'un, ni trop de l'autre. Si t'es tout le temps dur, t'es exploitable, si t'es tout le temps sympa, t'es exploitable, dans les deux cas. Et donc je trouve ça très stylé. Et en fait, la meilleure façon finalement de savoir si tu possèdes vraiment une qualité, donc par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont courageux, en fait ils n'ont jamais été dans la situation qui leur demandait de faire preuve de courage. Et après, du coup, ils peuvent décider. En fait, c'est la même notion. Hein. Je perds un peu le fil de mon idée, mais c'est la même notion qui est inoffensif, pacifique. Comment savoir si tu es inoffensif ou pacifique? Entre les deux, il n'y a pas que les gens qui savent se battre d'un côté, ceux qui ne savent pas se battre d'un côté. C'est est-ce que tu es capable de faire preuve de violence quand c'est nécessaire? Quand tu es dans la rue et ta mère elle se fait agresser, ta sœur, ta copine, whatever, est-ce que tu fais preuve de violence pour la défendre? Et c'est là où tu découvres si t'es inoffensif ou pacifique. Et ça me fait penser à une anecdote que je vous avais déjà racontée sur ma scolarité aux États-Unis. C'est quand j'avais été dans le bâtiment où on pensait qu'il y avait un tireur isolé, donc on était cachés sous les tables, et personne voulait se lever pour aller foutre une table devant la porte et sécuriser la salle. Et c'était que des gros babards de frat qui, je pense, dans leur tête, se définissaient comme des hommes courageux. Et finalement, quand il a fallu faire preuve de courage sur ce truc-là, bah, il n'y a eu personne. Et donc, on a attendu. Et moi, moi le premier. On s'est touché dessus pendant des dizaines de secondes, qui paraissent extrêmement longues, quand t'as la prof qui dit « faut mettre une table ». Et à la fin, c'est moi qui ai fini par me lever. Totalement à contre-cœur, sans faire preuve de courage. Je veux pas faire genre j'étais courageux, c'est juste que fallait foutre une table, quoi, genre, et j'étais proche de la porte, donc je vais pas faire l'ancien. Et c'est là où je vous ai raconté, là, le SWAT, ils ont pointé leur mitraillette sur moi. J'ai déjà raconté dans les, allez, je crois que c'est l'épisode sur HEC, je crois que je l'ai raconté. Bref, donc, ne soyez pas un agneau, ne soyez pas une brute ou un loup, soyez un petit peu des deux, et sachez quand faire appel à l'un ou à l'autre. C'est ce que nous enseigne Machiavel. Pendule numéro 7. Alors, elle est en anglais, parce que je l'ai entendue telle qu'elle hier quand je m'endormais. Je me suis mis un petit podcast qui s'appelle Academy of Ideas, qui est super et qui fait des petites démonstrations. Je crois que c'était un podcast qui était sur l'amour et les relations. Et dans lequel il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué. Et c'est, je vous l'ai dit en anglais, je vais faire de mon mieux pour la traduire derrière. C'est « Two people love each other when they are quite capable of living without each other, but still choose to. » Donc, deux personnes s'aiment vraiment l'un l'autre. Quand elles sont capables de vivre l'une sans l'autre, mais elles choisissent quand même de le faire. Alors, moi j'y vois une leçon sur l'association en entreprise, vous pouvez aussi l'apprendre pour vos relations personnelles, mais ça pour le coup j'ai moins de success stories qui me donnent de la cred pour vous apprendre quoi que ce soit. Je suis assez mal à l'aise avec tout raisonnement qui s'apparente, de près ou de loin, que ce soit dans les relations personnelles ou pas, à je ne peux pas vivre sans cette personne. Donc en amour, ça va être assez mon âme sœur, je peux pas être séparé de lui, on est fait l'un pour l'autre, etc. Ça pour moi, c'est les prémices d'une association toxique. C'est sûr et certain. Parce que ça crée un genre de dépendance malsaine. Ce que ça fait, ce truc-là, c'est que ça met de la pression sur l'association. Tu vas... Parce que ce qui se passe, c'est que le message que ça transmet, c'est l'association est plus importante que tout. C'est-à-dire on protège toujours l'association. Mais ce que tu vas chercher à protéger, c'est la mauvaise chose. Tu vas chercher à protéger l'association au lieu de la développer. C'est-à-dire que pour toi, il n'y a pas de pire scénario que l'association disparaisse. Alors qu'en vérité, il y a plein de scénarios où c'est mieux parfois de mettre un terme à l'association si elle rend malheureux tout le monde. Et le problème, c'est que tu peux... En fait, pourquoi est-ce que ça donne lieu à la toxicité? C'est parce que ça t'enferme, très simplement. T'admettre tout court que tu préfères être associé dans une relation de merde que de pas être associé. Et ça, c'est la recipe for catastrophe. Comme disent, encore une fois, nos amis de la Silicon Valley. Et donc, avoir une stratégie d'exit... donc un backup, un plan B, pour moi c'est la façon la plus saine d'aborder une association, parce que tu peux avoir un énorme engagement et quand même savoir que si ça foire, tranquille, tout va bien se passer. Et c'est ça qui donne des associations saines, c'est les gens qui en fait auraient très bien pu monter des trucs de leur côté mais choisissent de s'associer et mettre en commun leurs compétences et tout ce que tu peux apporter autour d'une table. Et ça implique en fait toi vraiment d'avoir intégré le scénario que ne plus travailler ensemble est possible. C'est pas 0% ce scénario-là. Et quand t'acceptes ce truc-là, que t'es très fine avec l'idée, c'est là où t'as les collaborations les plus florissantes. Alors évidemment, franchement, ça veut pas dire que la séparation dans une association ne fera pas mal. Hein. Comme les relations, ça fait autant mal que ça a été intense, souvent. Mais, comme disait je ne sais plus quel écrivain, c'était le médicament dont ils avaient besoin, aussi dégueulasse qu'il était. On passe à la suite. Alors, je vous en ai parlé un peu dans les FAQ dessus, là, c'est le numéro 8, c'est « Éduquer, c'est faire éclore ». Je vous en ai parlé dans l'épisode précédent sur la FAQ, c'est David qui m'en a parlé de cette idée que j'ai trouvé très cool. Et je voulais vous en parler parce que c'est... donc là, en gros, la racine du mot « éduquer », je ne suis pas très précis dessus, mais c'est genre « éduquere » ou un truc comme ça. Ça veut dire « faire sortir d'eux, faire éclore, conduire hors ». Rien que ça, c'est intéressant. Parce qu'on imagine souvent, en fait, un éducateur comme quelqu'un qui doit expliquer comment faire, faire faire aux gens. Donc te dire, tu dois faire comme ça, comme ci, comme ça, quelqu'un qui donne des recettes de cuisine. En fait, pour moi, le système de la recette de cuisine, montrer comment faire, c'est le meilleur moyen de ne jamais faire éclore quelque chose. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'apprentissage par cœur à l'école, c'est pas de l'apprentissage en fait, hein, c'est de la mémorisation, et ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que pour moi, t'as vraiment appris quelque chose quand t'es capable de le relier avec d'autres savoirs que tu as déjà. Le problème de ce prof-là, c'est que quand il t'apprend quelque chose, il va te filer un tuto, mais il sait pas sur quel savoir que tu as déjà, ça va t'ancrer. Moi, pareil, quand je vous partage des idées ici, je suis pas dans vos têtes, je sais pas ce que vous avez déjà lu, je sais pas à quoi ça va vous faire penser ce que je suis en train de dire, et je peux pas faire de tuto général pour tout le monde. Vous avez tous des systèmes de connaissances qui sont différents du mien, et différents les uns des autres. Donc je sais pas avec quoi vous allez le relier. Donc c'est pour ça que, personnellement, moi je peux pas vous apprendre grand chose en fait dans ce podcast. Je peux juste être un partageur en fait, entre guillemets. Mon travail c'est de partager des trucs que je vis et qui peuvent peut-être parfois faire écho à des trucs que vous êtes en train de vivre, vous avez vécu, etc., et qui vont vous permettre d'avoir un système de connaissances plus important. Et donc sans vous dire, parce qu'en fait j'aurais très bien pu faire un podcast qui est au numéro 1, comment créer une agence, première étape, poser les statuts, deuxième étape, signer des clients, troisième étape, les garder, quatrième étape, recruter. Ça, c'est utile, mais c'est pas éduqué. C'est pas faire éclore. Ça empêche de faire éclore. Plus c'est standardisé, moins tu fais éclore, je trouve. Et en fait, cette responsabilité pour moi de l'enseignant, je la trouve trop dure. J'ai pas envie d'avoir la responsabilité de ce que je vous dis, il faut le faire. C'est très dur. Je n'ai pas envie d'assumer, moi, d'ailleurs, si ça marche pas, si vous faites de la merde. Je veux juste partager des trucs qui vous permettent derrière de prendre des meilleures décisions, mais vos décisions, à la fin, sont les vôtres. Ce sera jamais, vous venez pas me voir en me disant Théo, il a dit ça. Hein. Je ne répondrai en rien. Je ferai comme si c'était rien passé, comme si j'étais au courant de rien. Donc, le seul truc que moi je peux vous partager, et j'essaie de m'en tenir à ça à chaque fois que j'essaie de donner qu'on me demande de donner un conseil, c'est qu'est-ce que j'aurais fait à votre place. Et donc, j'ai autant de chances de. Je n'ai pas la science infuse, j'ai autant de chances de fail une décision que vous. Mais au moins, je donne un truc honnête. Et je me mets dans cet exercice-là pour partager tout ce que je peux. Et donc, moi, je trouve que j'aurais rempli ma mission d'éduquer si jamais je trouve la bonne façon de faire naître chez vous des idées sans jamais avoir à vous dire quoi faire. Vous en pensez quoi? C'est bien, non? Numéro 9. En fait, le truc aussi, c'est que moi, j'écoute pas en fait des podcasts recettes de cuisine. J'arrive pas, je sais pas pourquoi ça n'a pas d'impact. Je pense que c'est une des raisons. C'est parce que ça fait pas éclore. Ça n'éduque pas. Bref. On passe à la suite, numéro 9. Alors là, c'est ma préférée de préférée de préférée parce que je l'ai trouvée trop smart, je l'ai trouvée trop intelligente, et ça parle de Nintendo. Ça s'appelle, il y a un nom bien barbare en plus, ça fait hyper intellectuel, ça s'appelle le Lateral Thinking with Withered Technology. Je suis toujours tiraillé quand je vous dis un truc en anglais sur est-ce que je parle comme si je parlais en anglais ou je parle avec mon accent français qui prononce de l'anglais. Donc la pensée latérale avec Withered Technology, bon bref, c'est en français derrière, je suis allé prendre les petits extraits de la fiche Wikipédia. C'est une idée que j'ai trouvée très intéressante et qui fait, encore une fois, écho à des trucs dont on a déjà parlé dans ce podcast. Donc, la manière Nintendo d'adapter la technologie n'est pas de rechercher l'état de l'art, mais d'utiliser une technologie mature qui peut être produite en masse à bon marché. Donc en gros, bon, pour vous redonner un peu de contexte, avant peut-être de me lancer dans la lecture, ça explique comment est-ce que Nintendo a innové et a créé des produits de ouf qui ont pris tout le marché. Et donc, quel était leur mécanisme d'innovation? Ce que ça explique, c'est qu'ils n'ont pas, en fait, au global, pris des... essayer d'inventer des nouvelles technologies qu'ils ont pu appliquer derrière dans des consoles de jeux vidéo. Ils ont à la place pris des technologies qui existaient déjà, donc qui étaient déjà bien documentées, qu'on pouvait amener à l'échelle, mais qui étaient sur d'autres marchés, qui n'étaient pas appliqués au marché du jeu vidéo. Donc vous voyez rapidement à quelle idée ça fait référence dans les épisodes précédents, c'est l'idée de recombinaison. Donc toute innovation n'est qu'une recombinaison. C'est Cédric Doumbé qui va être un très bon combattant et à la fois un comédien. Oh, c'est innovant. Et toutes ces choses-là. Donc il y a une très bonne façon d'innover, c'est de faire ça. Et donc ça, c'est un nom, c'est super, ça s'appelle le lateral thinking. Et donc là, ils disent withered technology, withered, ça doit vouloir dire prouver ou amener à l'échelle. Je continue la phrase. En gros, c'est la pensée latérale de la technologie flétrie. Ouais, non, c'est éclaté comme nom. C'est la traduction de la fiche anglaise, hein, ce que je suis en train de vous lire. Donc, pensée latérale avec une technologie assaisonnée. C'est encore plus nul. Bon, bref, dans ce contexte, l'expression technologie adjacente, on va dire ça, fait référence à une technologie mature, bon marché et bien comprise. La pensée latérale consiste à trouver de nouvelles façons radicales d'utiliser cette technologie. Et donc le mec là, il s'appelait chez Nintendo, il s'appelait Monsieur Yokoi, Yokoi. Il estime que les jouets et les jeux n'ont pas nécessairement besoin d'une technologie de pointe, mais qu'il est plus important de proposer des jeux nouveaux et amusants. Au cours de l'entretien, il a laissé entendre qu'une technologie de pointe coûteuse pouvait entraver le développement d'un nouveau produit. Ça fait même l'inverse. Voilà. J'ai deux autres paragraphes à vous lire qui sont très intéressants. Game and Watch, donc ça c'est deux produits Nintendo, ont été développés sur la base de cette philosophie. Et vous allez comprendre, en fait, la Game Boy Advance et la Wii, ça a été développé avec cette technologie. À l'époque de son développement, Sharp et Casio se livraient une concurrence féroce sur le marché des calculatrices numériques. Et c'est pourquoi il y avait une surabondance d'écrans à cristaux liquides et de semi-conducteurs. La pensée latérale consistait à trouver une utilisation originale et amusante pour cette technologie bon marché et abondante. La NES et la Game Boy ont été développées selon une philosophie similaire. Sur le marché des consoles portables, le refus de Yokoi d'adopter un écran couleur pour la Game Boy en faveur d'une longue durée de vie de la batterie est cité comme la principale raison pour laquelle il s'est imposé face au Game Gear de Sega et au Lynx d'Atari. Vous voyez, c'est un cas hyper pratique ce truc-là. La technologie interne de la Wii était similaire à celle de la précédente console de salon de Nintendo, la GameCube, et n'était pas aussi avancée en termes de capacité de calcul et de polyvalence multimédia par rapport à ses concurrents, la Xbox 360 et la PlayStation 3. Au contraire, la console offrait quelque chose de complètement différent en introduisant sur le marché des consoles des commandes basées sur le mouvement, dans une tentative de changer la façon dont les jeux vidéo sont joués, et par conséquent d'élargir le public des jeux vidéo en général. Cette stratégie démontre la conviction de Nintendo que les avancées graphiques ne sont pas le seul moyen de faire progresser la technologie des jeux. Donc vous voyez comment on replace une innovation dans son contexte. Il y a toujours une innovation stratégique. Et vous voyez, ça refait écho à un truc dont je parlais au début. Ah, en fait, il suffisait de faire des commandes qui bougent. Enfin, des commandes, comment on appelle ça ? Bref, une manette que tu tiens dans la main à détecteur de mouvement, quoi. Pour battre la PS3 et la Xbox. Eh bien non. En fait, ça déjà, faut être en position de le faire. Faut être en position d'utiliser la technologie, avoir les équipes, etc. Et à ce moment-là, cette différenciation peut être utile. Faut aussi être capable de produire des centaines de millions de Wii. Je sais pas combien ils en ont vendu, mais certainement un truc comme ça. Donc en effet, après le succès retentissant de la Wii, Sony et Microsoft ont sorti leur propre périphérique à contrôle de mouvement. Tiens, les copieurs. L'importance accordée par Nintendo au périphérique pour la Wii a également été citée comme exemple de la pensée latérale de Yokoi. Voilà, donc innover, c'est recombiner, les potes. Il y a plein de choses qui sont sous vos yeux et qui n'attendent que d'être découvertes. Je vous donne un petit exemple, une petite intuition que j'ai, si vous voulez l'exploiter. Donc en tant que runner, je suis fan absolu de Strava, sur lequel je me connecte tous les jours. Je trouve que la logique de cette application, donc la comparaison des performances et le accountability, devrait avoir pénétré tous les autres sports. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et la vision sociale aussi, de pouvoir partager ces trucs. Typiquement, je sais pas pourquoi ça n'existe pas, quelque chose dans une salle de jujitsu, une salle de boxe, une salle de... Enfin, n'importe quel sport de confrontation, où tu peux annoncer que tu as fait une confrontation avec quelqu'un et ça te fait, par exemple, un classement. Et les deux se mettent d'accord, ils valident, ok, telle personne a gagné tel round, telle personne a gagné tel round. Et si t'es pas d'accord, ça note pas. Ça, par exemple, je suis sûr que ça pourrait bien marcher. T'as un profil, du coup, avec ton classement, ton nombre de victoires, t'as un record, tu peux dire, je suis à 24 victoires, 2 défaites, comme les pros, je suis sûr que ça marcherait. Ou alors, ça mériterait d'être creusé. Donc voilà, le lateral thinking, on va l'appeler comme ça, hein, la pensée adjacente. Je trouve ça très cool. Ah, on continue. Bon, celle-là, elle est très courte. Quelle est la définition d'un professionnel, les potes ? Je vais vous la faire très simple. La différence entre un professionnel et un amateur, c'est que le professionnel, il s'arrête pas quand il a plus envie. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas être pro dans toutes les disciplines de sa vie. Si jamais vous ne pratiquez une activité que quand vous vous sentez bien, quand vous avez envie de le faire, ou quand vous le sentez, vous n'êtes pas un professionnel. Voilà. Donc dites-vous bien qu'il faut quand même choisir à un moment quelque chose dans sa vie sur lequel on va être pro. Évidemment, tout le monde est tendu dans la même direction, le travail pour lequel vous avez été embauché, mais imaginez que vous appliquiez cette discipline professionnelle à une activité sur laquelle d'habitude les gens sont amateurs. Eh bien, vous devenez un professionnel de cette discipline amateur, et ça devient une carrière très originale. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, je trouve que la définition très synthétique, elle fait son travail. Pendule numéro 11. Remplacer le temps passé à convaincre des gens par la construction d'une mini-preuve. Pour le sujet principal de la vente, qui est mon sujet de toujours, je vous en parlerai encore beaucoup de fois, c'est de convaincre. Tu veux vendre quelque chose à quelqu'un, il faut que tu le persuades qu'il faut qu'il achète ton truc. Et pendant longtemps, moi j'ai cru du coup qu'apprendre à vendre, c'était apprendre à convaincre. Du coup, c'était ça. Tu devais apprendre la bonne intonation, la rhétorique, comment structurer un pitch, etc. Blablabla. Et puis après, j'ai fait l'exercice mental que je vous recommande souvent, c'est le pistolet sur la tempe. Donc en gros, demain, il y a un vilain bandit qui arrive et qui met un pistolet sur la tempe, qui me tend un téléphone et qui me fait « je vais te filer le numéro d'un prospect, il va répondre, et si tu lui vends rien, je tire. » Donc là, j'ai pas d'autre choix que de lui vendre. Donc là, je dois trouver une méthode qui m'assure de lui vendre. Et bien ici, le cerveau fonctionne très facilement, il est très facile à trouver. Comment est-ce que vous convaincriez quelqu'un et vous voulez être sûr que la personne achète dans votre pitch ? Bah écoutez les potes, moi je passerai pas mon temps à essayer de le convaincre avec des procédés rhétoriques. Je trouverai juste une preuve irréfutable que le produit fonctionne et va résoudre son problème. Et pour moi c'est ça en fait, faire le travail de vente. C'est construire une boîte pour qu'elle aille dans une direction de construction de preuves qui facilite le discours commercial. C'est pour ça que les gens passent beaucoup de temps sur les études de cas. Parce qu'une étude de cas sur une très belle marque dans le domaine whatever, cosmétique et tout, ça va t'aider à convaincre les prochaines marques qui font de la cosmétique. Et tu peux remplacer une excellente preuve par le... Tu peux donner une excellente preuve pardon, au pire sales de la Terre, ça va bien marcher. Plutôt que l'inverse, de prendre le meilleur sales mais lui filer un pitch en carton, pas de preuve, enfin bref, pour un produit de merde, quoi, très simplement. Et pour moi, ce temps que tu passes à essayer de convaincre quelqu'un qu'un produit doit être vendu, enfin qui doit te l'acheter, passe-le en fait à construire une preuve qui va rendre la vente plus facile. Et je trouve ça un peu plus créatif que d'apprendre à vendre, voir les objections, etc. Et en fait, tout derrière, évidemment, c'est plus compliqué que ça dans la réalité. Et vous comprenez la logique derrière. Vendre, il n'y a pas de discipline. C'est comme il n'y a pas de discipline qui s'appelle le business. C'est Naval qui dit ça. Ça n'existe pas. Et qu'il y a des gens, je suis bon en business. Dans le business, c'est plein de choses. Même chose, je suis bon en vente. Ouais, mais vente de quoi en fait? Genre, la vente est quand même indissociable du produit qui est vendu. Tu peux être très bon pour. Si ce qui définit quelqu'un bon en vente, c'est quelqu'un qui vend beaucoup d'un truc, bon bah écoute, je te file un mauvais produit, tu vas devenir un mauvais vendeur. Est-ce que ça veut dire que t'es un mauvais vendeur? Je ne sais pas. Voilà. Tu peux être très bon pour créer des relations, etc. Ça, pour moi, c'est des compétences où c'est plus facile de mesurer et c'est. Alors, je sais pas si c'est le bon sens du mot, mais agnostique du produit. J'ai un petit doute sur la définition exacte de agnostique. Je vais checker en même temps pour améliorer notre culture à nous tous. Agnostique. Personne qui professe ce qui n'est pas expérimental. The fuck? Ok, bon, j'ai pas compris. Est inconnaissable, sceptique en matière de métaphysique. Ah ben, je l'ai pas du tout employé dans le bon sens. Hein. Agnostique. Je suis sûr que... Attends, je vais quand même pousser un petit peu la recherche. Faites un truc. L'agnosticisme. Une attitude philosophique consistant à aborder de façon sceptique les questions métaphysiques ou de religion, affirmer que l'esprit humain ne peut pas accéder à l'absolu. Bon, bah, je crois que je me suis mépris, les potes. Hein. Je veux dire, agnostique, ça veut dire qui n'est pas secteur dépendant. Bon, je pense que ça voulait dire ça. Bon, ça veut pas le dire. On passe à la dernière pendule avant de vous parler des meilleurs contenus de la semaine. Et je pense que je vais. On n'aura pas le temps pour les FAQ. On n'aura pas le temps. La dernière, ça s'appelle les exercices mentaux. Donc j'en ai un peu saupoudré quelques épisodes de Road to 10 Million, mais je voulais vous en parler en fait à titre. Vous parler de l'idée de l'exercice mental et à quoi ça sert. Donc en gros, il y a des situations où. Le premier défi que tu vas avoir à remplir pour prendre une bonne décision ou je sais pas quoi, c'est. Enfin, si, ou je sais quoi, justement, pour prendre une bonne décision, point, et pas une virgule, c'est de découvrir ce que tu penses vraiment, au-delà des mensonges que va te raconter ton cerveau. Et en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a plein de situations dans lesquelles ton cerveau peut avoir tendance à te mentir. Par exemple, je sais pas, tu te fais larguer parce que tu as fait une connerie. C'est tellement dur à accepter que ton cerveau, il va te dire « Non, mais en fait, la personne, c'est un connard. » Voilà, boum, tu t'es protégé. Ton cerveau t'a pas dit la vérité, mais c'est pas grave. Il t'a privilégié le réconfort court terme. Donc, il y a un gros exercice qui consiste à, pour prendre une bonne décision, se mettre dans des dispositions où on va recevoir l'information telle qu'elle est vraiment, pas influencée par les biais du cerveau. Et c'est à ça que ça sert un exercice mental, c'est que ça te permet de mettre le cerveau dans une situation où il n'a pas d'autre choix que de dire la vérité, ou du moins où c'est plus facile de savoir ce qu'il pense vraiment. Et après, t'as le choix de l'accepter ou pas, pour battre ses propres biais, en fait. Donc je vais vous en donner quelques-uns, des raccourcis qui vous aident à penser clairement. Ces petits modèles en fait, qui vont vous permettre d'accéder et vous rendre compte qu'en fait ce que vous pensiez que vous pensiez n'est pas ce que vous pensiez. Oh la phrase. Ce que vous pensiez que vous pensiez n'est pas ce que vous pensiez. Bon, je vais prendre, on va passer aux exemples. Hein. Donc, disons que, première chose, on va dire quoi, je prends lequel pour commencer, pour que ce soit le plus clair, j'en ai quatre. Tu veux savoir si t'es dans le bon taf, si t'es dans la bonne voie professionnelle. Et tu te dis, ouais, non, mais franchement, j'aime bien ce travail et tout. Ça va, tu as le boss, il est pas ouf et il n'y a pas des grosses perspectives, mais je suis heureux, j'ai des bons collègues et tout, c'est cool. Maintenant, tu vas te dire, imagine que demain, on t'annonce que tu dois rester bosser 20 ans dans ce taf. Est-ce que c'est toujours la bonne voie? Et après, tu peux réduire, ok, 20 ans, non. 10 ans. 5 ans. 2 ans. Et là, tu découvres ce que ton cerveau pense vraiment. Et après, tu l'accueilles ou tu l'accueilles pas. Hein. Il peut y avoir encore plein d'autres biais qui peuvent se glisser après cet exercice. Mais au moins, tu as une information supplémentaire. Pareil, tu veux savoir, qu'est-ce que c'est un mec attirant pour une femme? Comment, ou quel type de personne tu dois devenir pour attirer la femme de ta vie? Et ben en fait, l'exercice très simple, c'est de te dire, bon bah la meuf de tes rêves, imagine-toi le mec avec lequel elle se marie. Et là, ton cerveau, il va devenir super créatif. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il mange 4 McDo par jour? Tiens, tiens, tiens. Est-ce qu'il se fait mal parler? Tiens, tiens, tiens. Est-ce qu'il a beaucoup de potes ou il a pas beaucoup de potes? Et vous voyez que les réponses vont être très différentes pour plein de personnes, mais tu t'engages dans une direction qui va te permettre de savoir ce que tu penses vraiment. Et après, ça veut pas dire que c'est vrai, hein, les potes. Hein. Ça veut juste dire que c'est ce qu'il y a dans ton cerveau. Et après, tu peux le traiter. Parce que tu peux avoir peut-être des vieilles croyances. Ah, peut-être que la meuf de mes rêves, en fait, elle se mettrait avec moi que si je faisais 150 kilos sec. Bon, bah peut-être que tu te gourres un peu, mon pote. J'aime bien, c'est pour ça que j'aime bien ces exercices mentaux, c'est parce que ça retire le fluff. C'est très, machiavélien, du coup, pas machiavélique. Très machiavélien comme façon de penser, c'est voir les choses sans artifice, telles qu'elles sont vraiment. Il y a aussi le modèle mental de l'inversion dont je vous parlais. C'est avant de, si tu te demandes comment réussir, demande-toi d'abord comment ne pas fail. Quelles pourraient être les raisons principales qui te feraient échouer. Ça te rend créatif. Et si tu veux savoir ensuite si tu dois faire quelque chose aujourd'hui, si t'as un petit doute, demande-toi si la personne que tu seras demain sera contente d'avoir fait ce truc-là. Je sais pas pourquoi je pense à McDo à chaque fois. Et tu vois, t'as un peu faim, tu sais que t'as déjà éclaté tes calories du jour, t'as envie de te commander un McDo, parce que la personne de demain, elle sera fière de toi. Bon bah au moins là, tu sais. Après, bon, tu commandes pas, hein, y a d'autres choses qui font que, que tu peux avoir envie de commander. Ça peut être parfois trop dur de résister, mais au moins tu sais. Et j'aime bien les exercices mentaux, donc il y en a des tonnes, hein, il y en a des alors c'est même plus que des centaines, c'est certainement des milliers, qui aident à mieux penser. Et je vous referai peut-être d'ailleurs un épisode sur les modèles mentaux, mais il y en a plein d'autres qui sont très utiles et que j'utilise assez souvent, et que j'aimerais beaucoup vous partager. J'aime bien faire des épisodes comme ça, les épisodes un peu de checklist, c'est très accessible en plus. Ok. Alors, c'est la fin des pendules à l'heure. Donc je vous rappelle toutes les pendules, je vais les relire quand même pour que vous les ayez bien en tête. La pendule numéro 1, c'était... On ne met pas des jantes en or sur une Clio. Ensuite, chercher conseil auprès de ton meilleur pote, c'est comme demander à ta mère si t'es beau. Numéro 3, apprendre à speak something into existence. Numéro 4, faut-il parler de soi. Numéro 5, vivre la vie comme un jeu vidéo. Numéro 6, le machiavélisme. Bref, la pensée de Machiavel. Et du coup, la différence entre inoffensif et pacifique. Ensuite, numéro 7, c'est « Two people love each other when they are quite capable of living without each other but still choose to ». Numéro 8, « Éduquer, c'est faire éclore ». Numéro 9, c'était le « lateral thinking ». Numéro 10, c'est la définition d'un professionnel. Numéro 11, c'est remplacer le temps passé à convaincre par le temps passé à construire des preuves. Et numéro 12, c'était les exercices mentaux. Voilà, voilà les potes, j'espère que ça vous a plu. On passe au meilleur de la semaine. Alors, il y a encore plein d'idées dans le meilleur de la semaine. Je vous ai dit, j'en ai 7. J'en ai 7. 7 contenus qui seront linkés dans ma newsletter qui partira cette semaine. Si vous voulez avoir les liens, il faudra vous abonner, les potes. La première chose, donc, c'est une newsletter de Gurvinder. D'ailleurs, je crois que ça se dit Gurvinder Bogal, avec un accent français, sur l'audience capture. Ah bah voilà, c'est ça. C'est là où il parlait du gros lard, là, du mec qui bouffait que des McDo là, pour pouvoir faire des vues. Alors il dit, lorsque les influenceurs, je vous fais un petit extrait pour vous donner envie de le lire, c'est sur Substack, ça s'appelle Audience Capture et vous le retrouverez facilement, ou alors vous pouvez attendre, vous abonner à la newsletter et attendre que je vous envoie le lien tranquillement. Lorsque les influenceurs analysent les réactions du public, ils constatent souvent que leur comportement le plus excentrique reçoit le plus d'attention et d'approbation, ce qui les amène à recalibrer leur personnalité en fonction d'indices sociaux beaucoup plus extrêmes que ceux qu'ils recevraient dans la vie réelle. Ce faisant, ils exagèrent les facettes les plus idiosyncratiques de leur personnalité, devenant des caricatures grossières d'eux-mêmes. Alors la caricature de soi-même, ça c'est un phénomène, je vais faire un petit aparté là-dessus, qui m'a fait abandonner certains créateurs de contenu que j'adorais. Alors je ne vais pas les mentionner ici, ce serait pas ouf, pas très gentil. Mais il y a plein de gens que tu peux adorer pendant 2-3 ans, et en fait tu te rends compte qu'ils évoluent tellement au signal social, enfin ils le regardent tellement pour faire leur poste, qu'ils deviennent en fait... Et ils poussent trop loin le faire ce qui marche. Et donc ça devient des caricatures d'eux-mêmes. Plein de créateurs de contenu que j'ai adoré vraiment, qui ont énormément d'impact sur moi, qui sont en fait devenus des caricatures d'eux-mêmes. C'est-à-dire, t'as l'impression que c'est très stéréotypé ce qu'ils racontent. Et c'est un vrai exercice quand tu partages depuis longtemps, de continuer à te diversifier, à partager des nouveaux trucs, même si ça rentre pas dans ta ligne éditoriale de base. Alors, c'est toujours un équilibre entre les deux. Il faut que tu sois connu pour quelque chose, mais que tu utilises cette attention que t'as générée pour faire découvrir des nouveaux trucs sur toi. Mais faites attention à ne pas devenir des caricatures de vous-même. Et regardez aussi, bon, sur LinkedIn, c'est là où c'est le plus flagrant. Hein. Les gens sont très clichés et c'est parce que ça marche. C'est parce que l'algorithme est entre les deux et est fondé sur des actions d'engagement qui ne sont pas honnêtes. Hein. Vous savez, quand, sur LinkedIn, vous ne likez pas un post d'une personne parce que vous l'aimez, parce que vous êtes à l'aise avec, avec le fait que les autres utilisateurs de LinkedIn le voient. Enfin, voient que vous aimez. Si vous m'avez suivi, je crois que c'était le tout premier épisode de Retout Emilien, peut-être. Le prologue. Je continue le passage sur la audience capture. La caricature devient rapidement la marque distincte de l'influenceur, et toutes les tentatives ultérieures de l'influenceur pour rester fidèle à sa marque et répondre aux attentes du public l'obligent à agir comme la caricature. Au fur et à mesure que la caricature devient plus familière que la personne, tant pour le public que pour l'influenceur, elle en vient à être considérée par les deux comme la seule expression honnête de l'influenceur. Tadam. De sorte que tout écart par rapport à cette caricature est rapidement perçu comme inauthentique. À ce stade, la persona a éclipsé la personne et le public a capturé l'influenceur. Et c'est comme ça que tu t'es capturé par ton audience. C'est stylé comme titre, non ? Voilà pour le premier, ce sera linké. Numéro 2, ça s'appelle Unveiling an Illusion. C'est une newsletter qui s'appelle The Wheel of Reorientation. Donc The Wheel, c'est le vent de la réorientation. Et alors, je voulais sélectionner pourquoi, c'est parce que ça donne un peu plus de précision sur une notion que j'ai déjà mentionnée, qui est la différence entre le risque et la volatilité, et comment l'exploiter, surtout en entrepreneuriat. Et donc, il dit, sur les marchés financiers, les concepts de volatilité et de risque s'entremêlent souvent. Ils créent une compréhension floue, en particulier dans la conscience collective du troupeau. Pourtant, il est essentiel de reconnaître que la volatilité et le risque ne sont pas identiques. Oula. La volatilité est une mesure statistique qui reflète la dispersion des rendements. Le risque est la possibilité d'une perte permanente du capital. Vous comprenez, les amis. L'opportunité réside dans l'exploitation de cette disparité. C'est un jeu permanent qui se joue dans l'esprit des investisseurs. L'exploitation de cette disparité, c'est-à-dire reconnaître quand est-ce que les gens pensent que c'est du risque alors que c'est juste de la volatilité. Et c'est là où tu peux te construire des convictions en fait, sur des assets. Est-ce que le Bitcoin est un asset d'avenir ? Et donc, du coup, il est juste volatile, mais dans tous les cas, il va aller vers le haut. Ou alors, est-ce qu'il y a le risque que ça aille à zéro ? Et c'est là où tu fondes ta thèse d'investisseur. Numéro 3, arbitrage. La newsletter s'appelle Arbitrage. Elle a été écrite par Austin Carroll. C'est sur comment est-ce que tu utilises les livres pour étayer ton savoir. Et donc, il dit, petit extrait, très court. En effet, j'ai constaté que l'utilité des livres réside dans la connexion et la combinaison de leur contenu, plutôt que dans la lecture isolée d'un livre. Il est préférable d'essayer de relier le livre que vous lisez à d'autres livres et de combiner les leçons, plutôt que d'essayer de tirer des leçons de chaque livre individuellement. Alors oui, je me souviens dans quel contexte est-ce qu'il écrit ça. C'est un mec qui a fait l'armée et qui essaie d'expliquer aux jeunes, du coup, qui rentrent dans l'armée, quel type de bouquin il faut lire. Et typiquement, quel est le pourcentage de bouquins qu'il faut lire qui sont sur l'art de la guerre. Et il leur explique qu'en fait, ça doit être 1 sur 7. Je crois que c'est ça qu'il recommande. Il me semble, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est ça, c'est 1 sur 7, ou c'est autour de ça. Et donc, tout le reste, il faut lire des bouquins qui n'ont rien à voir avec la guerre. Pourquoi ? C'est parce que c'est des choses qui vont te permettre, comme tu as quand même un socle de bouquins sur la guerre, tu vas pouvoir en fait utiliser ce socle-là pour prendre tous les bouquins qui vont venir derrière et aller les relier et construire un tissu de savoir qui va être hyper unique et qui va t'éviter de te prendre la redondance que peuvent avoir une dizaine de bouquins sur la guerre qui vont tous dire à peu près la même chose à quelque chose près. Et j'aime beaucoup ce truc-là. Vous savez, je vous parle depuis longtemps du fait d'aller chercher des edges dans des domaines connexes à ce que vous faites, dans lesquels les concurrents ou le marché ne va pas souvent chercher des choses. Ça, c'est full value. Ça marche. Et ensuite, une citation de Raymond Béran. Ah putain, je ne l'ai pas traduite celle-là. Attendez, je vais la mettre dans DeepL. Putain, qui est l'un des textes les plus beaux que j'ai lu cette année sur « Qu'est-ce que l'amitié ?» Je vous tease bien, c'est le temps de le foutre dans... Je vais le lire direct depuis DeepL. Qu'est-ce qu'un ami ? Je vais vous le dire. C'est une personne avec laquelle tu oses être toi-même. Votre âme peut être nue avec lui. Il semble vous demander de ne rien revêtir, seulement d'être ce que vous êtes. Il ne veut pas que vous soyez meilleur ou pire. Lorsque vous êtes avec lui, vous vous sentez comme un prisonnier qui a été déclaré innocent. Vous n'avez pas besoin d'être sur vos gardes. Vous pouvez dire ce que vous pensez, tant que c'est authentiquement vous. Il comprend les contradictions de votre nature qui amènent les autres à vous juger à tort. Avec lui, vous respirez librement. Vous pouvez avouer vos petites vanités, vos envies, vos haines et vos étincelles vicieuses, vos mesquineries, vos absurdités, et en vous ouvrant à lui, elles se perdent, elles se dissolvent dans l'océan blanc de sa loyauté. Il comprend. Point. Il comprend. Vous n'avez pas besoin d'être prudent. Vous pouvez le maltraiter, le négliger, le tolérer. Mieux encore, Vous pouvez rester tranquille avec lui. Cela n'a pas d'importance. Il vous aime. Il est comme le feu qui purge jusqu'à l'os. Il comprend, il comprend. Vous pouvez pleurer avec lui, pêcher avec lui, rire avec lui, prier avec lui. À travers tout cela, et en dessous, il vous voit, vous connaît, vous aime. Un ami, qu'est-ce qu'un ami ? Un seul, je le répète, avec lequel vous osez être vous-même. C'est pas magnifique en vrai. Franchement, les gens qui écrivent comme ça, je me dis, c'est quand même un cheat code, tu vois. c'est quand même un truc de ouf. Genre, tu peux vraiment faire... un cheat code pourquoi ? Un cheat code de... Quand t'as la capacité en fait, de faire passer des messages comme ça, de les écrire si bien, à l'écrit, c'est une compétence qui, bon, que tu peux évidemment monnayer très cher sur le marché, mais qui derrière peut te servir dans tout. T'écris une lettre à... Imagine, t'écris une lettre à une meuf écrite comme ça. Mais laisse tomber. Il peut y avoir 10 concurrents. C'est toi. C'est un truc de ouf. Il suffit que, bon, évidemment, d'avoir une personne un peu sensible à l'écriture. Je trouve ça trop fort. Bravo, Raymond Barron. Et je vous en mets 3 en plus. Là, pour le coup, 2 podcasts. Non, un podcast, une newsletter, une vidéo YouTube. La partie de Rob Anderson dont je vous parlais là sur Machiavel. La newsletter s'appelle The Machiavellian Maze, donc le labyrinthe de Machiavel, qui est trop cool. Academy of Ideas, là, le truc qui m'a inspiré la phrase sur s'aimer sans être dépendant l'un de l'autre. Ça s'appelle Why Do Most Relationships Fail? Et ensuite, le podcast de George Mack que j'ai cité, il s'appelle Infinite Loop. C'est pas son podcast à lui, mais il est invité. Voilà les potes. On est à combien de temps? On est à 1h40. Eh bien, écoutez, je pense, les amis, qu'on va s'arrêter là. Je répondrai aux questions longues dans un prochain épisode. J'ai été très content de passer 7h40 avec vous. Et donc, on est le 31 décembre. Je peux vous le dire officiellement. Les amis, bonne année. J'espère que 2023 a été pleine de réussite ou d'apprentissage. De toute façon, c'est pas très important. On a encore longtemps à vivre, donc on va y arriver, là où on veut aller. Moi, à jamais, ça sera l'année où j'ai créé ce podcast. Je vous remercie beaucoup d'être là à chaque épisode pour l'écouter. Vous êtes d'une régularité, mais sans faille. Je fais quasiment le même nombre de vues à chaque épisode, sauf sur certains bangers, mais vous êtes au rendez-vous. Ça me fait extrêmement plaisir. C'est une super combinaison entre des trucs que je kiffe et du travail, pour moi. Donc, je vais continuer à vous le faire et à m'éclater en 2024. Continuez à me dire ce que vous en pensez à chaque fois sur Spotify, sur Instagram. Putain, j'ai plus de voix. Et j'espère que... Enfin, je vous souhaite que 2024 soit la meilleure année de votre vie. En tous les cas, si vous écoutez et que vous pensez un petit peu tous de la même façon, normalement, avec le growth mindset, bah forcément, ça sera la meilleure année de votre vie, puisque ça sera au moins 1% meilleur que l'année d'avant. Évidemment, tous les événements dont qu'on ne contrôle pas ne sont pas à prendre dans l'équation. C'est pas ça qui détermine si une année était bonne ou pas. C'est ce qu'on en a fait. Je vous embrasse et je vous souhaite de fêter ça dignement ce soir et de commencer directement à l'apprécier dès janvier. Sauf si vous allez dans les salles de sport et qu'il y a tous les noobs qui arrivent. Bisous, c'était Théo.